Vous êtes sur RTL.
Bon matin et bonjour à vous tous qui nous écoutez. Nous allons revenir ce matin sur la réalité de l'inceste dans notre pays avec des reportages et des témoignages très impressionnants. Dès 7h15, celui de Camille, cette jeune Marseillaise, a été abusée par son oncle. Elle a gagné son procès, mais l'agresseur a bénéficié du sursis. Notre spécialiste police-justice, Cindy Hubert, nous donnera, elle, le détail des chiffres officiels sur l'inceste en France. Ce sont des estimations, mais le gouvernement maintient ce chiffre de 10%. Cela fait 3 enfants par classe. Réaction de l'invité politique de notre matinale à 7h40, Christophe Castaner répondra aux questions d'Alba Ventura. Il sera aussi question du voile, du séparatisme, des projets sécuritaires du gouvernement, bref, l'actualité politique du moment. Enfin, sachez bien entendu que nous évoquerons la formidable carrière de Jean-Pierre Bacri à 9h dans Laissez-vous tenter avec toute l'équipe et que dans la même édition, Michael Youn sera présent dans ce studio pour son tout nouveau Morning Night. C'est ce soir à 21h sur M6. La dernière fois, c'était une formidable réussite. Nous sommes le mardi 19 janvier 2021. Bon début de journée sur RTL. Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Quand le confinement fait grossir nos enfants, les pédiatres mettent en garde. Leur constat est inquiétant.
Les journées sans fin passées devant les écrans, l'arrêt du sport à l'école, les dégâts sur certains jeunes sont déjà visibles. Reportage à suivre. Des piqûres, mais surtout de la patience. Jean Castex promet d'accélérer encore la vaccination alors que les autorités alertent sur les masques faits maison à l'efficacité plus que douteuse. Dans ce journal également, le retour de Georges Tronc devant la justice, soupçonné de viol sur 2 de ses collaboratrices. Aux États-Unis, des manifestants armés jusqu'aux dents, bien décidés à tenir tête à Joe Biden, qui s'installera demain à la Maison-Blanche. Et puis nous reviendrons sur la disparition de Jean-Pierre Bacri et sur son couple à l'écran et longtemps à la ville avec Agnès Jaoui.
Dès la fin du journal, la politique, Olivier Bost.
Avec la lutte contre l'islamisme, ce matin, il y a de grandes promesses intéressantes et des débuts difficiles.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Les chiffres avancés par certains spécialistes sont impressionnants et ils inquiètent ce matin le syndicat national des pédiatres. Depuis le premier confinement en mars dernier, 2 enfants sur 5 ont pris du poids et parfois même beaucoup. L'inactivité, l'arrêt du sport en classe, l'école à la maison, souvent sur le canapé et devant la télé, toutes ces causes ont donc des conséquences bien réelles et les dernières mesures sanitaires qui interdisent l'activité sportive en salle, même pour les mineurs, n'est pas de nature à rassurer. Écoutez ce reportage tourné hier à Lille par Franck Hanson.
À la sortie de leur lycée, Soraya et ses copines l'avouent, l'absence d'activité sportive commence à se ressentir sur la balance.
Bah, on a grossi, hein. Moins de sport et plus de temps sur les écrans. La moitié de la semaine, on est à la maison, c'est compliqué.
Vous avez pris quoi, 1 kilo, 2 kilos?
Voire même plus, ouais.
Et vous, mademoiselle, c'est pareil?
C'est pareil, j'ai pris du poids aussi. C'est la flemme, en fait, bah, on a moins envie d'en faire.
On a pris l'habitude de ne plus rien faire à cause du confinement.
La suspension des cours de sport en salle n'arrange rien, déplore Nadia, maman d'une fille de 11 ans, qui essaye pourtant de faire attention.
Bien sûr, ça nous inquiète. Même ma fille, elle faisait du sport, elle était un petit peu maigre. Même les grands personnes, ils ont pris du poids. On essaie toutefois de faire des sorties, de la marche ou quelque chose.
Pour ses parents, pas toujours évident de limiter l'usage des écrans ou de bouger leurs ados.
J'essaye, mais j'ai des ados à la maison, donc ouais. C'est difficile. Mes enfants, ils passent trop de temps déjà sur leurs écrans et là encore plus.
On fait quand même attention à ce qu'ils mangent, quoi. Ça va être vraiment une catastrophe, quoi.
Les activités en extérieur restent autorisées, rappellent les médecins. Aujourd'hui, le surpoids touche en France 17% des enfants de 6 à 17 ans.
Un reportage signé Franck Hanson. Des stocks limités et des carnets de rendez-vous saturés. Il faut croire que notre pays a décidément du mal à organiser la vaccination, ouverte depuis hier, vous le savez, aux plus de 75 ans. Jean Castex a promis de passer à la vitesse supérieure, annonçant 430 000 injections supplémentaires dans les EHPAD d'ici 2 semaines. Il semble en tout cas qu'il y ait urgence alors que le nombre de cas graves augmente dans les services de réanimation, 2800 désormais. Dans ce contexte, comment envisager la réouverture des remontées mécaniques? Elle avait été promise, du moins le gouvernement avait promis de réétudier la question. Les professionnels de la montagne seront reçus demain, mais dès hier soir sur RTL, Bruno Le Maire a douché quelques espoirs.
Ce qui peut menacer le plus notre économie, c'est que l'épidémie reparte, que nous soyons obligés avec le Premier ministre et le Président de la République de prendre des mesures encore plus drastiques. Et là, pour le coup, ce ne serait pas que les stations de montagne ou les stations de ski qui paieraient, c'est la France tout entière.
Donc la réponse est non, c'est difficile. Ça ne rouvrira pas.
Non, je ne peux pas vous dire, c'est le Premier ministre qui prendra la décision, on va rencontrer les stations de montagne dans les jours qui viennent. Je dis simplement que nous ne prendrons pas de risques pour la sécurité sanitaire et donc pour l'économie française dans les semaines qui viennent.
le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, invité de Thomas Soto dans RTL Soir.
Cette mise en garde à présent qui concerne les masques et notamment ceux fabriqués à la maison.
Ils sont peut-être plus jolis, davantage adaptés à la forme de votre visage, mais sachez qu'ils vous protègent moins face aux différents variants du virus considérés comme plus contagieux. Du coup, le Haut Conseil de Santé Publique recommande d'en limiter l'usage et de faire le tri lors de l'achat. Expliquez-nous, Virginie Garin.
Alors aujourd'hui, il existe deux types de masques en tissu vendus dans le commerce qui ont la norme AFNOR, l'Agence française de normalisation. Ceux de catégorie 1 filtrent 90% des particules. Ils sont aussi efficaces qu'un masque chirurgical. En revanche, ceux de catégorie 2, les UNS2, ne filtrent que 70% des particules. Alors si vous êtes malade avec un coronavirus classique, même si vous diffusez à travers votre masque une petite quantité de virus, le risque de le transmettre aux autres est faible. La charge virale n'est pas suffisante. En revanche, avec les nouveaux variants, les scientifiques pensent qu'une quantité plus faible de virus peut suffire pour contaminer les autres. Par précaution, donc, le Haut Conseil de Santé Publique recommande d'acheter plutôt les masques en tissu de catégorie 1 et de se méfier des masques fabriqués à la maison, car même si des modes d'emploi sont publiés par l'AFNOR, leur efficacité avec ces nouveaux variants n'est plus garantie.
Merci pour ces explications, Virginie Garin. Une grève chez Sanofi, les salariés appelés à cesser le travail aujourd'hui pour protester contre les suppressions de postes annoncées. Le laboratoire confirme 1000 départs d'ici 3 ans, dont 400 dans la branche recherche et développement. Et ce, alors même que l'entreprise est à la traîne en ce qui concerne la mise au point d'un vaccin contre le Covid.
RTL 7h05, Georges Tron, ancien secrétaire d'État, de retour aux assises 2 ans après son acquittement.
À l'époque défendu par un certain Éric Dupond-Moretti, il était donc ressorti libre de son procès pour viol accusé par 2 ex-collaboratrices. Entre-temps, il s'est fait réélire, maire de Draveil dans l'Essonne en mai dernier. Il est donc de retour à la barre et risque jusqu'à 20 ans de prison, Cindy Hubert.
Oui, cette fois, Éric Dupond-Moretti ne sera plus là pour terroriser la cour et les témoins. Mais les deux plaignantes redoutent tout de même de retrouver l'atmosphère poisseuse qui colle à ce dossier. En première instance, la justice a considéré que Georges Tron et Brigitte Gruel ont bien participé à des ébats sexuels en présence de tiers, ce qu'ils ont toujours nié. Mais les accusés ont pourtant été acquittés. La cour pointe les mensonges et les contradictions des plaignantes. Elle estime que les débats n'ont pas permis de rapporter la preuve d'une contrainte. Or, la contrainte, cela peut être aussi un rapport de pouvoir, souligne maître Vincent Olivier, l'avocat d'une des plaignantes, ancienne employée de la mairie.
Tout ça traduit en réalité le sentiment d'un homme qui, au regard de sa position, exerce une forme de droit de cuissage sur toutes celles qui sont en dessous de lui.
Les jurés ont donc 3 semaines pour plonger dans ce climat hypersexualisé de la mairie de Draveil, avec un cortège de près de 60 témoins attendus.
Chevier. Cindy Hubert. Autre procès, celui de l'affaire Karachi, plus de 25 ans après. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur, 91 ans, est jugé devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle en 95. C'est l'un des volets de cette tentaculaire affaire. Jugé également à ses côtés, l'ex-ministre de la Défense, François Léotard. Les députés ont entamé hier l'examen du projet de loi contre les séparatismes, non sans quelques turbulences. Le texte, qui vise notamment à lutter contre l'islamisme radical, divise la classe politique jusqu'au sein de la majorité. Près de 300 amendements ont déjà été rejetés, dont plusieurs portés sur la question du voile. Un déni de démocratie, dénonce une partie de l'opposition.
7h07 aux États-Unis, à la veille d'une passation de pouvoir sous très haute sécurité. Cette cacophonie s'est tenue autour de la question des frontières.
Oui, c'est d'abord Donald Trump qui annonce leur réouverture aux Brésiliens et aux Européens à partir du 26 janvier. Il n'en est pas question, ce n'est pas à l'ordre du jour, rectifie quelques minutes plus tard la nouvelle administration Biden qui prendra officiellement ses fonctions demain. Le nouveau président qui devra, comme ses prédécesseurs, sans doute gérer le débat sur les armes à feu. Inquiétude face au Covid, peur des émeutes, protestations. Les Américains se sont rués l'an dernier chez les marchands d'armes. Hier à Richmond, en Virginie, des révolutionnaires surarmés ont manifesté. Le 2e amendement chevillé au corps, vous allez l'entendre, c'est impressionnant. Vous étiez sur place, Brice Dugénie.
Oui, ces partisans du port d'armes prônent la révolution et appellent avec détermination à un ordre nouveau.
And no
Cet homme qui hurle que personne ne pourra l'arrêter s'appelle Mike Dunn. C'est le chef d'une milice. Tenue militaire, fusil mitrailleur sur la poitrine et pistolet à la ceinture, il fait partie des électeurs déçus par Donald Trump, jugé trop tendre.
Le président Trump a signé plus de lois contre les armes que les deux précédents présidents réunis. Il a violé la Constitution. Donc si Trump a fait cela, on est sûr que Joe Biden fera encore pire. On s'y attend. Donc je suis là avec mes gars et on sait ce qu'on a à faire.
Pour lui et ses hommes qui l'accompagnent, il faut aller beaucoup plus loin, renverser le système, faire une révolution armée si nécessaire. Au nom de la liberté, il voit l'assaut sur le Capitole comme un point de départ.
Je crois qu'on avance vers une possible révolution. Beaucoup de gens se sont détournés de Donald Trump et de son parti. Moi, j'étais fan, je suis parti pour un autre combat, je suis déterminé, je suis prêt à donner ma vie pour mes droits.
Traqués par les services de renseignement, ces hommes s'affichent pourtant visage découvert face aux policiers, déterminés à faire triompher leurs idées.
Brice Dugénil, l'envoyé spécial de RTL aux États-Unis.
La disparition de Jean-Pierre Bacri, maintenant l'acteur emporté hier par le cancer, avait 69 ans.
Connu et reconnu pour ses rôles de râleur, désabusé à l'écran, à la fois bougon, mais surtout attachant. On va citer un air de famille, Le goût des autres, deux films dont il a coécrit le scénario avec Agnès Jaoui, sa partenaire, sa compagne, longtemps à la ville. Ils se sont séparés en 2012. Mais ni l'un ni l'autre n'ont souhaité vraiment mettre fin à leur complicité. Écoutez-les.
C'est l'affaire de ma vie d'avoir écrit, d'avoir connu et écrit avec Agnès. Je ne peux pas vous répondre mieux. C'est une expérience que je n'ai pas envie de voir arrêter. On aime se voir, on aime écrire ensemble. Et donc voilà.
Ah
voilà.
Oui, on est toujours heureux d'être ensemble.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
On a du mal dans cet extrait à ressentir la joie de vivre entre les deux. En même temps, c'est aussi ça le tempérament de Bacri. Pourtant, le cinéma français doit énormément à ce couple inoubliable.
Oui, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, c'était plus qu'un couple, c'était un duo d'écriture et de vie, même après leur séparation douloureuse, vous le disiez, en 2012. Eh bien, ces deux-là ne se sont en fait jamais quittés et ont continué à écrire ensemble pour le cinéma, le théâtre. Leurs plumes semblaient trempées à la fois dans l'air du temps et dans l'intimité universelle de leurs personnages qui, au bout du compte, pour reprendre le titre d'un de leurs films de 2013, parlait à tout le monde, un air de famille, cuisine et dépendance, deux de leurs pièces adaptées au cinéma, mais aussi des merveilles ciselées pour l'une des grandes rencontres de leur parcours, Alain René, Smoking No Smoking en 93, et on connaît la chanson 4 ans plus tard.
Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28.
Une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
Mais non, c'est les Chevaliers de l'an 1000 du Lac des Paysans.
Non, non, Odile, c'est pas du tout ça. Les Chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru.
Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça.
Non.
Au lac de
Paladru.
Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse
Personne.
Voilà, ce ton si particulier vaudra à Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, le César du meilleur scénario en 98, l'un des quatre reçus par le couple, lui en recevant un cinquième cette même année, justement comme meilleur second rôle dans On connaît la chanson. Il s'était retrouvé une dernière fois devant la caméra d'Agnès Jaoui en 2018 pour le film Place publique qui explorait un de leurs thèmes préférés, l'amitié et l'amour à l'épreuve de la notoriété et du succès.
Merci Stéphane Boutsock.
Et nous évoquons le parcours si singulier de Jean-Pierre Bacri à 9h dans Laissez-vous tenter avec notamment André Dussolier.
Le handball et la victoire dans la douleur des Bleus hier soir face 25 à 24 face aux Suisses, ce qui leur permet de terminer premier de leur groupe et de filer désormais vers le tour principal de ce mondial.
Les courses hippiques ont-elles lieu à Pau?
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 5, le 9, le 10, l'As, le 12, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 10, Pina Cloud Down.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h12, merci d'écouter RTL. La politique tout de suite avec vous, Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Dans sa lutte contre l'islamisme radical ce matin, il y a de grandes promesses et des débuts difficiles.
Oui, le grand espoir, c'est d'abord la charte des principes pour l'islam de France. Avec elle, tout commence, s'est félicité hier Emmanuel Macron. Une charte qui rappelle notamment que les femmes sont égales aux hommes, que les lois de la République sont au-dessus des préceptes de la religion, qu'il ne peut y avoir d'islam politique. Alors c'est assez basique, mais comme on dit, ça va mieux en le disant. Et justement, tout le monde déjà ne veut pas le dire. Hier à l'Élysée, au moment de sa signature avec Emmanuel Macron, toutes les branches du culte musulman n'étaient pas présentes. Trois organisations n'ont pas signé. Elles ont encore 15 jours pour se décider à le faire. Mais cela veut déjà dire que cette charte fonctionne et qu'elle va s'imposer aux imams, ceux qui sont au contact des fidèles. Son but est simple, en fait, c'est de traquer les ambigus, ceux qui ne sont pas au clair avec la République. Ceux qui ne signent pas seront sous très haute surveillance, promet un conseiller d'Emmanuel Macron.
Cela veut-il dire que l'organisation de l'islam de France est en bonne voie ?
Alors oui, ça avance, clairement. Je vous rappelle que le chantier avait été lancé il y a plus de 20 ans maintenant par Jean-Pierre Chevènement, puis repris par Nicolas Sarkozy. Entre-temps, l'islam politique a pris de la vigueur. L'un des écueils de l'islam de France, ce sont les enjeux de pouvoir entre l'Algérie, le Maroc, la Turquie, pour leurs obédiences. Il n'est pas certain, d'ailleurs, que nous en soyons totalement sortis hier. Pour vous prendre une autre image, tenter d'organiser l'islam de France, c'est un peu comme quand nous voulons régler les conflits entre chiites et sunnites au Moyen-Orient. Ça fait longtemps qu'on essaye et ça fait longtemps qu'on échoue à chaque fois.
Il y a un autre front contre l'islam politique en ce moment, c'est à l'Assemblée nationale, Olivier.
Oui, et là, les débuts de la loi pour les valeurs républicaines sont compliqués. Le gouvernement veut absolument bordurer le débat, ne pas le laisser déraper. À se demander d'ailleurs s'il n'a pas peur de sa propre audace. Hier, en commission spéciale, c'est le premier filtre de la loi, près de 300 amendements, c'est-à-dire des idées de la majorité ou de l'opposition, ont été purement et simplement rejetés. Et le temps de débat ensuite sera limité. Il est reproché à ces amendements de n'avoir aucun rapport avec la lutte contre les séparatismes. Et parmi ces idées rejetées, il y a l'interdiction du voile pour les fillettes, comme on vous le révélait hier matin sur RTL. Pourtant, typiquement, c'est l'un des signaux très clairs de séparatisme. Le débat n'aura pas lieu dans l'hémicycle, mais son rejet risque pour le gouvernement de jeter le trouble sur sa volonté de vraiment s'attaquer au problème. Ce premier jour à l'Assemblée nationale résume à lui tout seul en fait la situation. Le gouvernement navigue entre la volonté de vraiment contrer l'islam politique et toutes ses conséquences et le fait de ne pas stigmatiser toute une religion. La volonté est là, fondamentale, mais l'équilibre, sacrément difficile à trouver.
Merci Olivier Bost. Et bien justement, la majorité et le séparatisme, nous ferons le point avec Christophe Castaner, le patron des députés En Marche. Il est l'invité d'Alba Ventura. C'est à 7h40 et c'est sur RTL. Dans un instant, nous allons vous faire entendre le témoignage de Camille. Cette jeune femme a été victime d'inceste pendant son adolescence. Elle a décidé de prendre la parole pour mettre des mots sur ses années de souffrance. Restez avec nous.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
RTL Matin.
L'inceste dans notre pays, des milliers de victimes témoignent ces derniers jours sur les réseaux sociaux, victimes de viols, d'attouchements, par des membres de leur propre famille. Des témoignages qui, il y a quelques jours, étaient encore rares, mais qui marquent par leur nombre et par leur violence. Un mouvement qui fait suite à la publication du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans lequel elle accuse son beau-père, l'influent politologue Olivier Duhamel, d'abus sexuels sur son frère jumeau. Et c'est toute une chape de plomb qui semble avoir explosé dans la population. Valentin Boisset, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez recueilli le témoignage d'une de ses victimes qui a décidé aujourd'hui de dévoiler sur son compte Twitter son traumatisme.
Oui, ce témoignage, c'est celui de Camille, une jeune Marseillaise de 30 ans aujourd'hui qui, il y a quelques jours, a exposé sur les réseaux sociaux l'inceste d'un oncle qui a abusé d'elle pendant plusieurs mois en 2003. Il s'agit de l'été de la grande canicule. Et ce qui marque dans la discussion que nous avons eue, c'est l'accord extrêmement rapide qu'elle a donné pour en parler au micro. Voyant, m'a-t-elle dit, le nombre de témoignages se multiplier un peu partout. Et elle veut désormais qu'un maximum de monde connaisse son histoire alors qu'il n'était qu'une poignée de proches à la connaître jusqu'ici. Elle avait 13 ans en 2003, à l'époque des faits. Son oncle en avait 26. Il a depuis été condamné à un an de prison avec sursis pour ces mêmes faits.
Ce sont donc des faits qui remontent à 17 ans et c'est important de le préciser dans le contexte. Camille va se livrer à nous avec son vrai prénom. Elle y tient, elle ne voulait pas être anonyme. Voici donc ce témoignage.
La toute première fois, c'était parce que j'étais en vacances chez mes grands-parents. Donc ça s'est passé la première fois parce qu'on regardait un film ensemble. Un film que j'ai plus pu supporter de regarder d'ailleurs pendant des années après ça. Il a commencé à avoir des gestes déplacés et ça a dégénéré. Et après, il y a eu des événements qui se sont passés chez mes parents, des événements qui se sont passés chez mes grands-parents. Au début, j'ai pas réalisé. Je me souviens de la première fois d'avoir fait remarquer que ça ne me plaisait pas. Puis il revenait à la charge, donc c'était de plus en plus gênant et jusqu'à un point de rupture en fait. J'avais occulté l'idée que c'était fait par mon oncle et c'est plutôt de la distanciation en fait, face à quelque chose de trop difficile à gérer émotionnellement en fait.
quelles conséquences directes ça a eu dans votre vie, dans les semaines qui ont suivi ?
Mon père m'a dit que du jour au lendemain, j'ai plus supporté le moindre câlin, le moindre rapprochement. Je me suis beaucoup coupée, en fait, de mes activités, de mes études aussi. J'en ai parlé à différents enfants, en fait, de mon âge à l'époque. On se sent coupable parce qu'on n'a pas su dire non comme on aurait aimé dire non. Ce n'est pas parce qu'on a pu apprécier, même sexuellement apprécier. C'est ça qui est le plus monstrueux. Que du coup, on n'est pas victime pour autant, en fait. Après ça, j'ai eu quelqu'un dans ma vie, en fait, un petit ami avec qui j'ai été pendant très longtemps avec lui. Enfin, ça a été compliqué entre nous au début, sexuellement, même si j'avais envie de choses, etc. Il y a d'autres choses, des gestes qu'il avait ou des expressions faciales qui me rappelaient mon oncle et je me bloquais, etc. Donc, ça a mis beaucoup de temps, en fait.
Comment vous avez abordé le sujet avec votre famille ?
J'en ai parlé en février qui suivait, en fait, les faits. Sur conseil justement de mon ex, il m'a rappelé que j'avais une petite sœur qui avait 10 ans de moins que moi et que 10 ans plus tard, bah, cette petite allait peut-être se retrouver seule avec son oncle aussi et voilà quoi.
Et ça a été compris ça par la famille ?
Alors par mes parents oui, ça a été un vrai choc. Je sais que c'est un vrai traumatisme pour ma mère parce que c'était son petit frère. Elle m'a toujours cru et elle a porté plainte, etc. Quant à mes grands-parents maternels, bah, du coup, la mère et le père de cet homme, bah, mon grand-père, bah, pour lui, c'était de ma faute et c'était moi qui avais tenté son fils, quoi, qui était responsable de cette situation et je mentais.
Dans votre cas, l'agresseur a été condamné à du sursis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis d'avancer ?
J'ai gagné mon procès, donc ça veut dire qu'il a été condamné. Et en fait, non, ça n'a rien détruit du tout. Cette personne, en fait, avait une carrière brillante dans la marine. Puis entre-temps, il s'était marié, il y avait eu une fille, quoi. Et avec son sourire insolent et son CV long comme le bras et ses 50 000 relations sur LinkedIn qui savent pas ce que c'est, quoi. Ce que ce mec est.
Alors aujourd'hui, avec des milliers de victimes, vous témoignez publiquement. Est-ce que quelque chose a changé ces derniers jours ?
Je suis pas non plus naïve, mais j'espère que l'ampleur du phénomène va imposer quelque chose. Au moins la discussion. Il y a des personnes qui m'ont dit en fait que c'était horrible, que ces personnes étaient monstres, c'est déviant, etc. devaient être punis, mais je ne pense pas que ce soit des monstres. Je ne pense pas que ce soit des déviants. Je pense que ça relève plutôt en fait du jeu de pouvoir. Je ne sais pas si ça fera bouger quelques lignes. Par contre, ça montre qu'il y a quelque chose en train de changer du côté des victimes. Et c'est là que je fonde l'espoir.
Elle parle de jeu de pouvoir. Merci beaucoup à Camille d'avoir pris la parole ce matin sur RTL au micro de Valentin Boisset. Et pour aller plus loin et tenter d'être le plus précis possible, nous avons voulu appréhender l'ampleur de l'inceste aujourd'hui dans notre pays. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste police-justice de la rédaction d'RTL et nous allons mettre en perspective les chiffres de l'inceste dont nous disposons et notamment cette statistique répétée par le gouvernement. Un enfant sur 10 dans notre pays dit avoir été victime d'inceste.
Oui, il faut imaginer, cela veut dire que dans votre classe en primaire, forcément, il y avait 2 ou 3 enfants concernés. C'est évidemment glaçant. Le problème, c'est que ce chiffre est une estimation. L'Institut Ipsos a interrogé 1 millier de Français. Le mot inceste n'est pas prononcé. Les enquêteurs listent plusieurs situations, agressions sexuelles, viols, exhibitionnisme, photographies érotiques ou encore des confidences répétées à caractère sexuel. Puis il pose la question, avez-vous été victime d'une de ces situations quand vous étiez enfant par quelqu'un de votre famille ? Et c'est comme ça que l'on arrive à 1 enfant sur 10 via des projections démographiques. Mais cela reste du déclaratif et rien de plus.
Mais Cindy, il n'y a pas d'étude à plus grande échelle des chiffres officiels ?
Aucune. Selon nos informations, ce sera l'une des grandes missions de la nouvelle commission sur l'inceste. Car pour le moment, le seul chiffre récent, il date de 2018, c'est le nombre de plaintes. 7000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. Mais là encore, cela ne dit pas grand-chose de l'inceste, puisque cela englobe tous les auteurs, qu'ils soient ou non de la famille. Mais cela suffit pour montrer que le silence continue de peser. 7000 plaintes quand on estime que près de 165 000 enfants sont violés chaque année. On l'a vu ce week-end, beaucoup mettent des années à parler et à pousser la porte d'un commissariat.
Cindy, on en sait un peu plus sur les victimes.
Oui, là en revanche, une note de recherche vient tout juste d'être publiée et elle s'appuie sur une analyse de procédure judiciaire. Premier renseignement, les victimes d'inceste sont en grande majorité des femmes à 70%.
77%. Deuxième enseignement, les victimes sont jeunes, très jeunes. Plus de la moitié avaient moins de 4 ans au moment des faits et 22% entre 5 et 9 ans. Ce qui veut dire qu'au total, 3 quarts des victimes sont des enfants de moins de 10 ans.
Et sur le profil des auteurs ?
Eh bien là encore, les chiffres sont sans appel. Les hommes représentent 95% des mises en cause. L'étude ne permet pas de distinguer si l'on parle d'un père, d'un frère ou d'un grand-père, puisque les décisions de justice évoquent simplement des personnes ayant autorité.
Merci beaucoup Cindy Humbert. Cette séquence est accessible en réécoute dans quelques minutes sur RTL.fr et nous allons retrouver Anthony Martin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h25, on vous retrouve Anthony Martin pour notre pépite musicale quotidienne.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors on va prendre l'air ce matin, on va voyager, je vous emmène à San Francisco en passant par la Mauritanie.
Ah.
Il y a pile 50 ans cette année, Maxime Le Forestier posait son sac dans une maison au numéro 3841 de la 18e rue du quartier de Castro à San Francisco. Une maison bleue adossée à la colline, dans laquelle il a goûté aux joies et délices de la vie hippie. De retour en France après cette expérience, pour remercier Luc, Lizard, Phil, Tom et Sylvia, ses hôtes, il a écrit en quelques minutes la chanson San Francisco et leur a envoyé la bande. Il n'écrivait pas assez bien anglais pour leur adresser un courrier. L'année suivante, Maxime Le Forestier intégrera la chanson à son premier album. Elle a été complètement passée inaperçue en 45 tours et on connaît la suite. Ce premier album magnifique lancera sa carrière. Et San Francisco, chanson carte postale par excellence, a voyagé une nouvelle fois il y a 10 ans dans la version 2011 de l'album de Maxime Le Forestier. Chaque chanson était réinterprétée par un artiste différent et le franco-mauritanien Dabi Touré a choisi de reprendre ce classique. C'est notre pépite du jour. Dabi Touré signe une très belle version de San Francisco dans la langue africaine, le soninké. Maxime Le Forestier en version africaine collector signée Dabi Touré. On trouve donc la chanson dans l'album hommage La Maison Bleue qui était sorti en 2011.
Il chante en soninké, nous avait goûté. Le refrain est en français.
Est en français, voilà. On a entendu le soninké.
Merci infiniment Anthony. Je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales en podcast et à tout moment en replay sur l'appli RTL.
À demain.
Notre rendez-vous matinal avec les grosses têtes de Laurent Ruquier avant de les retrouver de 15h30 à 18h. Et vous allez entendre que Christine Bravo surveille nos restaurateurs.
Vous savez que les restaurants ne sont pas fermés, ils sont ouverts.
Comment ça ?
Mais ils font de la contrebande.
Mais c'est malin de le dire, tiens.
Eh ben quoi, j'ai pas dit quel restaurant ?
Ah oh bah oui, mais enfin, c'est, ça va être surveillé maintenant.
Voilà. Là, tu jettes le soupçon sur tous les restaurants.
Mais pas tous les restaurants, mais il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts, mais avec les volets fermés. Voilà, il faut bien survivre.
C'est dramatique. Hein. Darmanin va engager Elliot Ness. Hein. Parce que ça devient terrible quand même. Hein,
mais non, parce que du moment qu'ils ne sont pas plus de 6 clients,
oui.
Le restaurateur dit c'est mon frère, c'est ma sœur, et qu'est-ce que tu as le droit d'inviter chez toi 6 personnes.
Et dis-moi, tu es allé, toi ?
Enfin, au restaurant chinois, dire c'est mon frère, c'est ma sœur.
Depuis le grand studio RTL, cet après-midi, vous retrouverez Valérie Trierweiler, Marcella Yacoub, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille, Titoff et Philippe Manœuvre. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Yves.
Comment allez-vous ?
Oh bah, très bien.
Et comment se porte notre météo ?
Eh bah, bien aussi, parce qu'effectivement, je vous annonçais de la lumière, du soleil aujourd'hui, notamment dans la moitié sud, c'est déjà fait, là, le ciel est dégagé. De l'Aquitaine aux Alpes, des Pyrénées à la Méditerranée, du grand soleil, ça sera comme ça toute la journée. Donc ça, c'est fait pour la moitié sud. Quelques nuages quand même dans le Languedoc-Roussillon. Dans la moitié nord, c'est un peu plus compliqué. On a encore quelques pluies là en ce moment au nord de la Loire, sur l'île de France, un peu près de la frontière belge. Quelques flocons d'ailleurs circulent sur les Ardennes.
Oui.
Mais là aussi, au fil des heures, c'est bien le soleil qui va finir par s'imposer. Assez rapidement sur le Val de Loire, un peu plus lentement sur l'île de France, mais ça va arriver là aussi en milieu d'après-midi. Et puis au fil des heures, eh bien, c'est toute la moitié nord qui va retrouver là aussi un petit peu de lumière. Alors il restera quelques nuages sur la pointe bretonne ou encore du côté de la Lorraine avec là quelques pluies, mais ailleurs, donc retenez cette lumière qui revient, plutôt les lunettes de soleil que le parapluie, le tout avec quand même le manteau, parce que ce matin il y a encore de fortes gelées dans le sud, moins 14 à Chamonix, moins 5 à Avignon, et oui, moins 5 à Avignon ou encore du côté de Salon de Provence, mais cet après-midi ça grimpe pour tout le monde, 4 à 6 degrés en Lorraine et Alsace, mais 8 à 11 degrés dans les autres régions, jusqu'à 14 degrés même parfois dans le sud.
Louis Bodin vous annonce donc une journée lumineuse, merci d'écouter RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, tout info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 19 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce matin, on a juste envie de réentendre cette voix.
Georges, c'est le contraire d'un gay.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Un numéro de claquette? Vous êtes gay, vous, vous êtes content. Bon, ben c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
Jean-Pierre Bacri, dans Cuisine et Dépendance, l'un des petits bijoux qu'il avait ciselé avec sa compagne Agnès Jaoui, comme un air de famille ou le goût des autres. Bacri qui excellait dans ses rôles de ronchon magnifique qui lui ressemblait beaucoup. On se souvient aussi de lui dans Didier avec Alain Chabat ou plus récemment dans Le Sens de la Fête, Bougon, mais toujours sur la ligne de crête, là où on bascule vers l'émotion. Jean-Pierre Bacri est mort d'un cancer, il avait 69 ans. Chantal Lobby avait joué avec lui dans La Cité de la Peur, elle a appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse.
C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je connaissais depuis très longtemps, déjà depuis ma jeunesse. Je ne savais pas qu'il était malade. C'était pas quelqu'un de démonstratif, mais c'était quelqu'un d'intériorisé, d'un talent inimaginable, pince sans rire, cette personnalité complètement à part. Et quelqu'un qui semblait bougon tout le temps, puis on sentait derrière cette bougonnerie tellement de belles choses. C'est ce qui faisait sa force.
Chantal Lobby avec Steven Bellery.
Nous remontrons le fil de cette carrière si particulière à 9h dans Laissez-vous tenter avec Stéphane Boutsock et nos invités. Sur le front du Covid, les masques en tissu sont désormais remis en cause.
En tout cas, certains masques en tissu, ceux de catégorie 2 qui ne filtrent qu'à 70%, c'est-à-dire généralement les masques faits maison. Le problème, ce sont les variants du virus qui sont plus contagieux, variants britanniques ou sud-africains. Il faut privilégier les masques de catégorie 1 ou les masques chirurgicaux. Et puis, il y aura peut-être bientôt, qui sait, un masque pour les sportifs. C'est en tout cas le projet porté par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.
Nous travaillons à un masque sportif et agréé par l'AFNOR avec le ministère de la Santé pour qu'on puisse pratiquer du sport en milieu fermé prochainement.
Il y a de particulier,
il y a la possibilité plus respirable, on peut respirer plus facilement puisque vous savez que c'est pour ça qu'on ne met pas le masque. Donc si on arrive à avoir ce masque, ça permettra aussi la réouverture des salles de sport et la reprise des activités en milieu fermé.
Et c'est dans ce contexte que Sanofi annonce la suppression de 400 postes dans le domaine de la recherche. Décision incompréhensible pour les syndicats qui appellent plus que jamais à la grève demain. Le laboratoire avait déjà annoncé un millier de suppressions d'emplois en juin dernier. Georges Tron est de retour devant la justice. L'ancien secrétaire d'État est rejugé pour viol et agression sexuelle sur deux anciennes employées de sa mairie de Draveil dans l'Essonne. Des actes commis au cours de séances de réflexologie plantaire. Il y a 2 ans, il avait été acquitté, tout comme son adjointe à la culture, jugée pour complicité. Eva Loubrieux est l'une des deux plaignantes.
J'espère qu'il aura la décence d'être moins souriant que la fois précédente. Il est grand temps que des hommes de pouvoir n'aient pas toute impunité. Il est toujours dans le même système. Je trouve ça incroyable. Alors que ma vie a été paralysée depuis tant d'années et lui, elle est réélue. C'est certain que si nous n'avons pas la justice de notre côté, à la fin de ce procès, le goût sera très 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 amer.
L'une des accusatrices de Georges Tron au micro RTL, Dan Le Hénaff. Vous l'avez certainement constaté à la pompe, les prix des carburants augmentent lentement mais sûrement. On est en moyenne à 1,33€ le litre pour le gazole, soit une hausse de 6 centimes en un mois. Alors certes, on est loin des records, mais c'est une tendance décryptée par Philippe Chalmin, le spécialiste des matières premières, professeur à Paris Dauphine.
Les producteurs se sont engagés à réduire leur production et l'Arabie Saoudite a fait même un geste supplémentaire en décidant de réduire encore sa production de 1 million de barils jour, c'est-à-dire à peu près 10% de sa production. Vous avez là l'explication de l'augmentation d'une dizaine de centimes de votre essence préférée à la pompe.
Pierre Chalmin avec Christophe Bourouf.
Il est 7h34 aux États-Unis à la veille de l'investiture de Joe Biden. C'est la cacophonie.
Ouais, cette nuit, Donald Trump a annoncé la réouverture des frontières aux Européens et aux Brésiliens, mais il a été immédiatement contredit par le président élu. Voilà qui promet une passation de pouvoir tendue. Ce matin, Lionel Gendron, Washington, a des allures de camp retranché.
Depuis une heure, un hélicoptère survole le Capitole. Il y a une alerte. La répétition pour la cérémonie d'investiture est suspendue. En cause, une fumée noire au loin. C'était en fait un départ de feu dans un campement de 100 domiciles fixes. Les services de sécurité sont sur les nerfs, car la protection de Joe Biden est la priorité. Son voyage en train depuis Wilmington a été annulé, pas assez sûr selon le Secret Service qui étudie toutes les hypothèses, y compris une attaque de drone ou un avion suicide qui briserait l'espace aérien de Washington. Les snipers sont en binôme, le deuxième aide à orienter la visée. Le but est aussi de se surveiller mutuellement. En effet, la crainte de ces dernières heures, c'est qu'un policier ou un soldat de la garde nationale soit infiltré et retourne son arme contre un officiel ou le président. Le FBI vérifie les antécédents des 25 000 gardes nationaux pour s'assurer qu'aucun d'eux ne soit lié à un groupe extrémiste.
Et demain, 25 000 soldats de la garde nationale seront déployés à Washington pour la prestation de serment de Joe Biden et Kamala Harris. Au mondial de handball en Égypte, les Bleus terminent le tour préliminaire sur une troisième victoire en trois matchs, mais ils ont dû batailler pour battre la Suisse 25-24. Prochain rendez-vous demain contre l'Algérie. Et puis en football, début ce soir du 8e tour de la Coupe de France. Tous les clubs amateurs sont à l'arrêt depuis octobre à cause de la pandémie. Restent donc uniquement les professionnels qui jouent sans être certains que les amateurs pourront un jour rejoindre la compétition. Tout ça, vous ne le lirez pas dans l'équipe ce matin. Malgré de nouvelles propositions de la direction, les salariés du quotidien sportif ont reconduit la grève pour le 11e jour d'affilée. Ils dénoncent un projet de 50 suppressions de postes sur 350.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet que nous retrouvons à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et on dira au revoir au télescope d'Arecibo qui s'est effondré le mois dernier. C'était un géant de l'astronomie et même une star de cinéma, figurez-vous.
À tout à l'heure, Isabelle. Il est 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous nous emmenez en Chine ce matin, François.
Oui. La Chine vrombit. Vous allez voir, c'est le taux de croissance le plus élevé de toutes les grandes économies du monde. Mais comment font-ils ces diables de Chinois ?
C'est étrange, je ne suis pas surpris. Allez, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h39, l'Anglais Co avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors la Chine vient de publier des chiffres de croissance économique impressionnants pour 2020.
Oui, l'Empire du Milieu a connu une croissance de 6,5% au dernier trimestre de l'année. Ça porte l'activité économique de 2020 au total à plus 2,3%. Alors, plus 2,3%, c'est bien sûr la croissance la plus faible pour le pays, pour la Chine, depuis la mort de Mao Tse-tung en 1976 et les débuts de l'ouverture du pays. Mais c'est aussi la plus forte croissance de l'année 2020 parmi les grandes économies de la planète. En 2020, petit rappel, les États-Unis ont fait du moins 3,6, la zone euro du moins 7, et la planète a connu une récession moyenne supérieure à 4%, du jamais vu depuis des dizaines d'années. Dans ce champ de ruines, la Chine est la seule à tenir debout.
Dites-nous tout, quel est leur secret ?
Avoir vaincu l'épidémie, bien sûr, avec un confinement extrêmement strict, avec une fermeture des frontières extrêmement stricte. 4500 morts en Chine l'année dernière à cause du coronavirus. C'est 10 fois moins qu'en France, alors que leur population est 20 fois supérieure. L'autre facteur de réussite, c'est le record des exportations chinoises en Occident. En partie grâce à l'iPhone 12, vous savez, le dernier modèle du smartphone d'Apple, fabriqué là-bas, qui a gonflé les chiffres de 8 milliards sur un seul mois. Mais aussi et surtout parce que les grandes entreprises d'État ont été massivement soutenues pour vendre chez nous des masques, des vêtements de protection pour les hôpitaux, du matériel médical, sans compter les millions d'ordinateurs dont la demande a explosé chez nous à cause du télétravail. Après avoir exporté chez nous le virus, la Chine a exporté les moyens de lutter contre le virus.
Bon, ça ne va pas durer quand même.
C'est vrai. C'est vrai. En ce moment, plus on va mal à cause de l'épidémie, plus la Chine va bien. Mais avec le vaccin, les économies occidentales devraient se réinstaller dans une certaine normalité. On peut l'espérer au moins pour la fin 2021. Et la Chine retrouvera alors ses problèmes. D'abord, un endettement considérable qui s'est accru avec le soutien massif aux grandes entreprises publiques exportatrices. Ensuite, le vieillissement accéléré de sa population, qui se traduit par la chute du nombre de Chinois en âge de travailler. Il en reste quand même un certain nombre, bien sûr.
Mais
depuis 40 ans, la croissance était portée par l'augmentation de la population active. Et à partir de 2015, ça s'est inversé.
Est-ce que ça veut dire que les succès actuels ne vont pas durer, François ?
Le climat va changer, c'est très probable. 2020 de ce point de vue, marque un peu l'apogée. Il y a deux victoires très importantes pour Pékin. D'abord, grâce à ces bons chiffres, la barre des 10 000 dollars de PIB par habitant a été franchie l'année dernière. Bon, c'est 4 fois moins que chez nous, mais c'est quand même considérable hein, quand on voit d'où ils sont partis et combien ils sont. Ensuite, pour la première fois, l'espérance de vie d'un Chinois devrait légèrement dépasser celle d'un Américain, c'est à fou. Cause de la pandémie. Parce que la pandémie a fait perdre plus d'un an de vie en moyenne aux Américains. Et d'ailleurs avec des disparités considérables, selon les races. C'est moins d'un an pour un blanc, c'est plus de 2 ans pour un noir. C'est considérable. Parce qu'évidemment, leur état de santé est plus précaire. Alors qu'elle n'a pas eu d'incidence en Chine. Mais ces deux succès remarquables ouvrent une période où la Chine va rejoindre progressivement le rythme de croissance des pays développés, le nôtre, et retrouver la Terre après avoir marché sur l'eau pendant 40 ans.
Merci pour toutes ces informations passionnantes. L'Anglais Co tous les matins sur RTL avec François Langlais. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Et les sujets ne manquent pas, notamment l'inceste et le voile, objet de discorde chez les députés.
A tout de suite avec Christophe Castaner sur RTL.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut faire de l'inceste un crime et non plus seulement un délit ?
Il faut en faire un combat permanent. Ce qui se passe aujourd'hui permet de libérer deux paroles, celle de la victime, mais aussi celle de l'écoute dans la famille. Parce qu'il y a un double tabou. Il y a celui de la victime, et on sait combien c'est difficile sur globalement tous les délits sexuels. Mais en plus, il y a celui d'enfreindre le cocon familial. Règle supplémentaire, y compris pour ceux qui savent et qui taisent. Et donc oui, il faut libérer cette parole. Et si c'est nécessaire, il faut évidemment donner la qualification pénale à ce crime. Parce donc, que ça n'est rien d'autre qu'un crime.
Aujourd'hui, c'est un délit puni de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Il y a une proposition de loi qui émane du Sénat. Si le texte est adopté, il pourrait y avoir 20 ans de prison prescrit. Est-ce que c'est une proposition de loi qui vous convient ?
Écoutez, nous verrons le meilleur véhicule législatif. Je ne vais pas me prononcer sur tel ou tel véhicule, mais une chose est sûre, c'est que c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Une députée de mon groupe, Alexandra Louis, a rendu un rapport au mois de décembre avec une série de propositions. Et nous ferons en sorte que la loi change si l'ensemble des acteurs considèrent qu'il est nécessaire qu'elle change. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il le faut.
Mais vous savez ce que disent les avocats ?
Le véhicule.
Ils disent qu'il y a un empilement de lois, on ne s'y retrouve plus dès qu'on doit défendre un enfant.
Oui, mais peut-être que cet empilement de lois n'a pas suffisamment permis de protéger les enfants aujourd'hui. On le voit, on en parle, et on voit comment peut-être 10%, là aussi je le mets au conditionnel, vous avez abordé ce sujet il y a quelques minutes sur votre antenne, et dit que c'était une évaluation. Mais imaginez, aujourd'hui, 10% des enfants dans leur famille victimes d'inceste, et pour la plupart, on n'en parle pas. Si le changement de loi, mais aussi les politiques de prévention, de travail au niveau de la médecine scolaire, etc., permettent d'identifier et de faire en sorte qu'on puisse lutter contre ce fléau, faisons-le, n'hésitons pas.
Vous êtes surpris quand vous voyez tout ce mouvement se lever, MeToo inceste sur les réseaux sociaux à la suite du livre de Camille Kouchner ?
Ça vous surprend ? On est forcément surpris parce qu'il y a quelques semaines, quand Alexandra Louis a rendu son rapport, il n'a pas fait la une des médias et pourtant elle disait ce que Camille Kouchner dit avoir vécu dans son fort intérieur pendant sa jeunesse. Et donc, tant mieux. Tant mieux si on a une parole qui est libérée et si on a une écoute qui brise le silence.
Vous avez vu qu'Elisabeth Guigou a démissionné de son poste de présidente de la commission sur l'inceste. Elle était citée comme très proche d'Olivier Duhamel, hein, accusé, le beau-père donc, de Camille Kouchner. Le patron de Sciences Po, Frédéric Millon, est accusé, lui, par des étudiants. Ils disent qu'il a menti, qu'il était au courant des faits. Il doit démissionner ?
Je n'en sais rien, parce que je ne connais rien du dossier, donc je ne vais pas me prononcer.
Christophe Castaner, il y a une autre proposition, enfin un amendement plutôt, à la loi sur le séparatisme, qui provoque des divisions au sein de la majorité. C'est celui sur l'interdiction du voile pour les petites filles, signé des députés de votre groupe, Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau. Cet amendement a été jugé irrecevable. Pourquoi ?
Ah, vous savez, c'est ce qu'on appelle un cavalier. Un cavalier, c'est une référence au cheval de Troie. Ça consiste, et c'est un principe dans la Constitution, dans son article 45, ça consiste à utiliser un article et à y mettre un amendement qui n'a rien à voir. Pourquoi la Constitution prévoit ça? Et je répondrai précisément à votre question. Pour éviter qu'à un moment où on parle de politique internationale, on puisse faire passer un amendement qui touche, par exemple, aux droits de l'enfant, sans qu'il soit préparé. Et donc, du coup, ça s'appelle le cavalier, le cheval d'Troie, et ça permet d'atteindre un objectif qui n'est pas celui que le cheval de Troie devait atteindre.
C'est pas un peu facile de s'abriter derrière ce cavalier?
C'est pas facile de s'abriter derrière la Constitution. La Constitution, c'est pas une base de discussion. La Constitution, c'est une règle absolue qui s'applique à nous tous. Et donc, il y aura encore plus de 1400 amendements qui seront débattus. Certains ont été déclarés irréguliers parce que cavaliers au titre de l'article 45. Certains ont fait un procès politique et vous savez qu'il y a 120 amendements qui ont été aussi déclarés irrecevables au titre de la même Constitution par le président Eric Woerth, président LR de la Commission des Finances.
Ces éléments de langage sur la Constitution, je les entends partout.
Ce n'est pas des éléments de langage, Madame Alba Ventura, c'est la Constitution.
Oui, mais une petite fille de 8-10 ans qui porte le voile, ça n'a rien à voir avec le séparatisme.
Non, et d'ailleurs tous les spécialistes
de ce sujet...
Le Coran
dit qu'on ne voile pas les petites filles avant leur puberté.
Non mais... Attendez, moi je ne suis pas spécialiste.
Non mais ça ne concerne pas la laïcité, Christophe Castaner.
Je ne suis pas du tout favorable à ce sujet-là. Mais des spécialistes qui pourtant ne sont pas laxistes, comme Gilles Clavreuil, comme Caroline Fourest, sont venus dans les auditions devant les députés. Il y a eu 50 heures d'audition et ils ont dit ne mélangez pas tout, ne traitez pas de la question du voile. Et vous savez que les deux personnalités que je viens de citer ne sont pas des personnalités molles dans le combat contre les séparatismes. Au contraire, ils peuvent nous inspirer.
Vous savez que certains disent dans ce cas pourquoi examiner l'amendement sur les accompagnateurs ou les accompagnatrices scolaires, où il peut être aussi question du voile.
Mais parce que justement, on parle de l'école dans ce texte. C'est le principe même du cavalier. Comme on parle de l'école, on peut évoquer le sujet lié à l'école.
Reconnaissez que ça suscite des interrogations. On se dit, est-ce qu'ils ont vraiment envie de lutter contre l'islamisme radical? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans ce « et en même temps, allez, on s'attaque à l'islamisme radical et en même temps, on ne va pas heurter les musulmans ?» C'est ça?
Absolument pas. Et d'ailleurs, vous savez, ce qui serait très bien, Madame Alba-Ventura, c'est qu'on parle de la loi plutôt que de ceux qui n'y est pas. Et si vous voulez, on peut parler de la loi, il nous faudra plus que les 10 minutes de notre interview, mais il y a énormément de choses dans la loi et dans la lutte contre les séparatismes.
Ça provoque quand même des divisions chez vous?
Non, des divisions, mais des discussions. Deux députés, sur l'ensemble du groupe, ont déposé deux amendements. Il y a des discussions, elles ont lieu sans aucune difficulté. Et je les ai régulièrement aussi avec ces députés. Ça ne s'appelle pas des divisions. Mais ensuite, vous ne pouvez pas d'un côté faire des chroniques en expliquant que les députés de la majorité sont des godillots ou des députés Playmobil et vous étonner qu'on ait des discussions politiques entre nous. C'est très sain.
Donc cette question du voile des petites filles ne sera jamais traitée?
Mais d'abord, elle a déjà été traité. Et en plus, cet amendement ne visait pas spécialement, je vous invite à le relire, même s'il a été déclaré irrecevable, le voile des petites filles. Il visait l'ensemble des signes religieux qu'un jeune homme, qu'une jeune femme qui n'est pas adulte devait porter. C'est le cas, par exemple, d'un jeune homme de 17 ans juif qui, le vendredi, veut se rendre à la synagogue et qui aurait pu être impacté aussi par le fait qu'il ne peut pas porter la kippa. C'est le cas d'un scout, et j'ai longtemps été scout catholique, avec des signes religieux sur notre uniforme de scout. Du coup, nous aurions été aussi impactés à l'époque, j'étais scout. Donc c'est tout cela aussi dont on peut parler, on peut en parler librement.
Christophe Castaner, l'opposition et notamment les Républicains qui a organisé une conférence de presse hier vous accusent de confisquer le débat, de contourner le Parlement. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Moi, ce que j'ai tenté de faire il y a quelques instants.
Ils ont fait pareil par le passé.
Non, même pas. Ils font de la petite politique politicienne. L'article 45 de la Constitution, l'article 40, sont des articles qui garantissent le bon fonctionnement du Parlement. D'ailleurs, François de Rugy, président de la commission spéciale qui travaille sur ce texte, a écarté 286 amendements avec les services de l'Assemblée au titre de l'article 45. Mais M. Woerth, président LR de la commission des finances, en a lui-même écarté 120. Ce qui est paradoxal, c'est de voir le président du groupe LR venir se plaindre d'un mauvais coup de la majorité, alors même qu'il sait que c'est un président, membre de ce groupe, qui a décidé pour 120 amendements d'appliquer l'irrecevabilité.
Mais reconnaissez que contourner le Parlement, c'est parfois bien pratique. Vous avez mis en place une commission indépendante pour réécrire l'article 24 de la loi sécurité globale. Il y a une convention citoyenne sur le climat en vue d'une loi. Maintenant, un comité citoyen sur les vaccins. Tout ça, ça contourne le Parlement.
Alors d'abord, sur le premier sujet, nous n'avons pas mis en place une commission externe. J'ai confié à la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale le soin de faire des auditions pour réécrire cet article 24 dont la perception n'avait pas été partagée, à commencer par les journalistes. Et ensuite, de temps en temps, solliciter l'avis des Français directement et ne pas considérer qu'il y a qu'il y ait une élection une fois et que pendant 5 ans on ne parle plus avec les Français, je pense que c'est une bonne chose.
Mais les Français ne représentent pas le peuple, les députés sont élus pour ça.
Mais bien sûr, mais il n'empêche que les députés n'ont pas une sorte de science infuse qui fait que pendant 5 ans ils ne devraient pas écouter les Français.
C'est nouveau ça, Christophe Castaner ?
Non, pour moi ça n'est pas nouveau, c'est une pratique.
Vous étiez député socialiste et vous défendiez votre statut de député.
Mais je l'ai toujours défendu, je le défends plus encore. N'entendez pas dans mon propos la mise en cause. Par contre, parce que j'ai été député, parce que j'ai été maire pendant presque 17 ans, je sais aussi le besoin de temps en temps d'écouter.
Mais est-ce que la procédure parlementaire est trop longue ? Parce que c'est ça le vrai sujet. Le décret permet aussi d'aller plus vite.
Non, mais il y a deux choses.
Dans un calendrier très contraint.
Non, mais le décret, c'est ce qu'on appelle du réglementaire, qui effectivement peut permettre d'aller plus vite. La loi, c'est quand on touche aux sujets fondamentaux. Il faut prendre le temps. La loi, elle ne se fait pas en hyper-émotion, en hyper-réactivité, et elle ne se fait pas non plus dans l'urgence. Il lui faut le temps d'élaborer cela. Par contre, comme vous, il m'arrive de râler et de me dire que ça ne va pas assez vite. Et le président de la République est certainement le premier de mes interlocuteurs à râler sur le fait que les transformations dont notre pays a besoin ne vont pas assez vite.
Question à l'ancien ministre de l'Intérieur, un Beauvau de la sécurité, une grande concertation police-gendarmerie sera organisée le 25 janvier. Cela fait suite notamment aux propos du président Macron qui, dans une interview, reconnaissait l'existence de contrôles aux faciès et de violences policières. On a du mal à se passer des énièmes Grenelle, Beauvau sur la sécurité. C'est indispensable ?
Oui,
Cette réunion,
d'abord, c'est toute une série de réunions, c'est toute une série de déplacements sur les territoires du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oui, c'est toujours utile de se poser, de prendre le temps de réfléchir, de constater ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a des sujets qui ne vont pas. J'ai posé le 8 juin, quand j'étais ministre de l'Intérieur, dans une conférence de presse, le principe du combat absolu contre le racisme dans la police, parce qu'il y avait des errements.
Ils vous l'ont reproché d'ailleurs, les policiers.
Ils me l'ont peut-être reproché, mais il y avait des errements, les faits le montrent. Mais il n'empêche que je sais que la police dans ce pays n'est pas une police raciste.
Merci Christophe Castaner.
Merci à vous.
Merci à l'un et à l'autre. L'inceste est un crime et doit être jugé comme tel, nous a dit notamment Christophe Castaner. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver en podcast sur le site rtl.fr. Et dans un...
RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Sini.
Il est 7h57 et c'est bien entendu Jean-Pierre Bacri avec qui vous surfez ce matin.
Mais oui, car évidemment, depuis hier, on salue l'immense acteur râleur qui, face à tant d'hommages, aurait peut-être lâché.
Je commence à en avoir plein le cul de vos grands airs. Arrêtez de me parler comme ça. Hein. Ça va.
Alors, on va plutôt parler de l'homme hein, qui, finalement, en interview en tout cas, n'était pas si différent de ce boudeur au grand cœur. Écoutez plutôt cette pépite. Une interview avec notre spécialiste cinéma ici à RTL, Stéphane Boutsock. Alors, je vous précise qu'on est dans la vraie vie, hein. C'est pas un rôle, écoutez.
Je vais vous demander de me dire qui vous êtes dans le film et de me présenter. Comment vous parlez ?
Ah bah, c'est incroyable, parce que vous, les journalistes, vraiment, vous faites pas chier, quoi. Vous faites pas chier. Au lieu de dire aux gens, alors c'est l'histoire d'un mec qui est comme c'est ça, vous demandez à l'acteur de vous faire le truc. Non mais qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire, c'est un mec qui organise des mariages. C'est ça que vous voulez que je vous dise ?
Bacri, plus vrai que nature, qui râle, mais qui finit quand même par...
Donc c'est un petit chef d'entreprise qui organise des mariages contre de l'argent.
Par jouer le jeu quand même, un personnage qui n'avait pas du tout l'intention de faire l'acteur, comme il le confiait dans l'émission Monsieur Cinéma en 86.
Je voulais pas du tout être acteur, je voulais être prof de français latin d'abord, ensuite banquier, puis finalement... finalement acteur.
Ouais, banquier, on imagine bien, tombé dans le cinéma... Par amour, mais alors pas par amour du 7e art.
C'est vrai que j'avais rendez-vous avec une amie, de laquelle j'avais envie de faire une connaissance plus approfondie, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'elle m'a déconseillé en me disant « pas ce soir parce que je vais au cours ». Quel cours ? Lui ai-je dit « d'art dramatique », me répondit-elle. Et je suis rentré dans un cours et tout ça après n'a été que magie, chance et réussite.
Extraordinaire, Bacri, toujours sur un fil entre humour, ironie et mélancolie, à la recherche de l'âme perdue.
Franchement, ce que je vais dire, c'est pas pour faire une blague, une formule, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de plus... Enfin, on ne s'évade jamais aussi bien qu'avec des paysages humains. Et que moi, en l'occurrence, c'est le paysage humain qui m'intéresse.
Un paysage humain qu'il voyait quand même plutôt sombre.
On est frappé souvent devant les photos de famille, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, il y a toujours une espèce de sourire général comme ça, mais c'est pour la galerie.
Et au pire et du pire de la comédie humaine, il tirait souvent le meilleur.
Ah, quel mépris ! 2 heures de retard, même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages ? Ils découvrent les embouteillages ? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche.
Ah, les riches, hommes engagés, hommes de conviction. Une étiquette de roi des bobos assumée. et de laquelle il préférait s'amuser.
Franchement, oui, alors qu'il faudrait plutôt être pour les grands présidents de banques internationales, protéger les riches parce qu'ils en ont besoin, de faire en sorte que les gens qui ont de l'argent continuent à en avoir, etc. Oui, on pourrait effectivement être moins bobo.
Alors il laisse derrière lui des répliques cultes.
Je vais lui faire une révérence et puis je vais lui réciter un petit poème de bienvenue.
Il est pas con, lui.
Est-ce que vous buvez quelque chose?
Et puis surtout...
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le destroy.
Elle m'a promis, on va essayer d'y aller mollo sur le destroy, mais avant, on va quand même se refaire 2-3 films de Jean-Pierre Bacri.
Merci beaucoup Cyprien Signy, on vous retrouve avec Thomas Sautour dans RTL Soir. Notre météo en quelques mots, Louis Bonnet.
Oui, ça va être vite fait puisque dans la moitié sud, hop, c'est du soleil tout au long de la journée, sauf peut-être autour du golfe du Lion, il y aura quelques nuages. Dans la moitié nord, des nuages ce matin, mais du soleil là aussi cet après-midi. Les quelques pluies qu'on a au nord de la Seine devraient disparaître presque totalement. Il en restera un peu en Lorraine ou encore sur la pointe bretonne. Attention au vent qui atteindra les 80 km/h sur le littoral de la Manche. Et puis les températures, ça gèle encore ce matin dans la moitié sud, mais cet après-midi, 4 à 6 degrés en Lorraine et Alsace, 8 à 11 degrés dans les autres régions, ça remonte, 11 à 14 degrés même parfois dans l'extrême sud.
Nous vous souhaitons une journée fraîche et lumineuse. Merci d'écouter RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les ravages du nouveau variant en Afrique du Sud.
11 000 morts en une semaine, nous serons sur place dans ce journal. Certains masques en tissu dans le viseur des autorités sanitaires, ils ne seraient pas assez efficaces. Et puis, comment sauver Eurostar menacé de cessation de paiement ?
RTL Matin.
Mais tout d'abord, vacances, j'oublie tout, ou presque. Vous êtes peut-être en train de poser vos congés pour février, de calculer le nombre de jours qu'il vous reste à prendre. Voilà le genre de casse-tête qui n'existe absolument pas dans cette entreprise de Lyon. La PME Anicop, spécialisée en informatique, 30 salariés libres de partir quand ils le veulent et le temps qu'ils souhaitent, à une seule condition évidemment, faire leur boulot. Et ça marche. Des vacances à l'œil, Raphaël Vantard.
Le projet a d'abord fait un peu peur aux salariés. Des congés illimités, ok, mais qui va contrôler? Quel regard vont porter mes collègues si je prends plus qu'eux? Après 2 années de discussion, Sébastien, employé dans cette société d'édition de logiciels informatiques, trouve son compte dans ces semaines de vacances sans limite.
On se pose moins de questions. J'ai besoin de prendre une semaine la semaine prochaine parce que je dois partir ou autre, bah je le fais. Je donne juste en fait l'indication un peu à mes collègues et puis après c'est bon.
Et vous allez prendre combien de congés alors, vous savez?
Honnêtement, habituellement, je ne prenais pas de congé au mois de février. Puis là, instinctivement, en fait, je les ai posés.
Pour éviter d'éventuels abus, l'entreprise a rédigé avec les salariés une charte. Le directeur associé Nicolas Perroux fait confiance à ses employés pour jouer complètement le jeu.
Il n'y a aucun contrôle qui est prévu. Il n'y a aucune peur ou aucune crainte de savoir si demain, les personnes vont prendre 3, 4 ou 5 mois dans l'année. Un salarié qui souhaite partir, il va s'assurer qu'il ne met pas en péril les projets sur lesquels il travaille ou son service. Chaque personne est responsable et va prendre les jours dont il a besoin pour trouver un vrai équilibre dans sa vie.
À la fin de l'année, l'entreprise Anicop fera les comptes, mais le patron et la maison mère en sont déjà sûrs. Avec des salariés motivés et heureux, les vacances illimitées n'auront aucun impact sur le chiffre d'affaires.
Ça fait rêver, hein ?
Oui.
Reportage de Raphaël Vantard.
Il est 8h03, faudra-t-il changer de masque ? La question est sur la table.
Le Haut Conseil de la Santé publique alerte sur ces masques en tissu que vous avez peut-être fait vous-même et qui risquent d'être peu efficaces pour contrer notamment les nouveaux variants du virus qui circulent en ce moment. Sophie Orange, de quel masque parle-t-on exactement ?
Alors déjà, les masques cousus à la maison, impossible bien sûr de vérifier leur capacité de filtration, la qualité du tissu ou des fibres, ils sont désormais déconseillés, tout comme certains masques que l'on trouve dans le commerce, ceux qui portent la mention UNS2, usage non sanitaire 2. Elle est notée sur le sachet, une filtration de seulement 70%. Là encore, insuffisante avec l'apparition des nouveaux variants. Pour les scientifiques, une quantité plus faible de virus peut contaminer les autres. Les masques doivent donc être plus performants. Sont donc recommandés les UNS 1 qui filtrent eux à 90% et aussi les masques chirurgicaux.
UNS 1, on retient bien cette dénomination. L'autre recommandation du Haut Conseil, Sophie, c'est de bien respecter 2 mètres de distance.
2 mètres et non 1 mètre. Et bien sûr, on le porte correctement, ce masque sur le nez. On le change toutes les 4 heures. On a tous vu des personnes avec le masque chirurgical qui boulochent ou alors d'une couleur douteuse. C'est mauvais signe. Mal porter le masque, c'est pire que tout. Pour le masque en tissu, il est indispensable de respecter le nombre de lavages. Là encore, c'est marqué sur le sachet. À force de les mettre et de les passer à la machine, ils ne vont plus rien filtrer. Il vaut mieux les jeter.
Merci beaucoup Sophie Orange. Et parmi les variants qui inquiètent aujourd'hui, il y a celui venu d'Afrique du Sud. On le connaît moins et on a encore du mal à le détecter chez nous. Plusieurs clusters ont été identifiés en France, mais on n'a pas de chiffres précis. Une certitude cependant, il est bien plus contagieux. En Afrique du Sud, ses effets sont ravageurs. 11 000 morts la première semaine de janvier. Il n'y a plus assez de lits Libye en réanimation. Le reportage sur place de Valérie Hirsch.
Le variant sud-africain est très contagieux. En 3 mois, le nombre d'infections est passé de 2000 à 20 000 par jour avant de retomber à 12 000. Lindo Dlovu, une étudiante, est en quarantaine chez elle dans le township d'Alexandra à Johannesburg. Elle n'a pas de symptômes sévères. Nous l'avons jointe par téléphone.
Je suis très inquiète parce que dans mon quartier, les gens ne portent pas de masque. Et même si la situation est grave, ils ne la prennent toujours pas au sérieux, surtout les jeunes. Quand ils parlent du virus, ils disent qu'ils n'y croient pas. Je ne sais pas si on pourra retourner à l'université.
Fin décembre, le gouvernement a fermé les frontières terrestres, banni la vente d'alcool et imposé un couvre-feu. Mais l'interdiction des rassemblements et le port du masque obligatoire sont loin d'être respectés. Prince Chikova vit dans une petite chambre à Soweto.
Hier, quand j'ai été faire des courses, la police a arrêté les gens qui ne portaient pas le masque. Car beaucoup de gens n'obéissent pas.
Les hôpitaux sont pourtant débordés. 5000 malades sont sous oxygène alors qu'il n'y a que 3500 lits en soins intensifs. Certains sont désormais traités à même le sol ou dans des tentes.
Le reportage de Valérie Hirsch en Afrique du Sud pour RTL.
Et en France, la crainte d'un rebond épidémique semble se confirmer au vu des derniers chiffres.
Oui, plus de 2800 malades sont désormais en réanimation. On n'avait pas vu un tel niveau depuis mi-décembre. Ouais. Le gouvernement promet d'accélérer la campagne de vaccination. Écoutez, le Premier ministre Jean Castex, c'était hier soir sur France 5.
On va mettre la surmultipliée comme cela a été prévu. Je commence par les résidents des EHPAD, puisque vous le savez, c'est là qu'il y a eu le plus de morts. Donc cette cible-là, à ce jour nous en avons fait un peu plus de 100 000, et dans les 2 prochaines semaines, notre objectif est d'en vacciner de l'ordre de 430 000. Là, le programme est prêt, les consentements sont recueillis, ça va y aller.
Ça va y aller, dit Jean Castex. 27 cas Covid dans un établissement scolaire de l'Oise. L'école élémentaire du Plessis-Belleville est fermée jusqu'au 26 janvier au moins. Avec la limitation des activités sportives et la fermeture des salles, les enfants et les ados ont-ils pris du poids depuis le premier confinement? Vous avez peut-être entendu à 7h tout à l'heure sur RTL le reportage de Franck Hanson. Le pédiatre Patrick Tougnan, il est médecin à l'hôpital Trousseau de Paris, se veut plutôt rassurant.
C'est vraiment un faux message, c'est-à-dire c'est le message, le confinement a conduit à manger plus de sucre, à faire moins d'activité physique et à passer plus de temps devant les écrans, donc ça leur a fait prendre du poids, c'est faux. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'un enfant qui était en restriction parce qu'il se trouvait gros, que ce soit une restriction volontaire chez un adolescent ou une restriction induite chez un enfant moins âgé, c'est vrai que le relâchement qu'il a pu avoir de cette restriction pendant le confinement a pu conduire à une prise de poids exagérée, mais il ne faut pas faire passer le message que le confinement a rendu les enfants obèses.
Propos recueillis par Laura Mauchi.
Elle était enceinte, elle a perdu son bébé. Les accusations graves d'une jeune femme qui accuse la police de l'avoir bousculée. C'est dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Dans le Val-d'Oise, une jeune femme a-t-elle perdu son enfant après une interpellation?
C'est ce qu'elle affirme. Elle a porté plainte. Le 10 décembre dernier, elle se trouvait dans un centre commercial avec une amie à Garges-lès-Gonesse, Thomas Proutot.
Au départ, un simple rappel à l'ordre pour non-port du masque. Déborah, alors enceinte de 4 mois et demi, et son amie affirment avoir obtempéré. Pourtant, le ton monte entre les jeunes femmes et une policière jusqu'à l'altercation. Sur une vidéo filmée par des témoins, l'amie est menottée au sol. Déborah tente d'intervenir, une scène masquée par les policiers sur la vidéo. Selon son récit, elle est écartée brutalement.
Cette même policière, elle m'a attrapée par le bras, elle m'a poussée contre le mur 3 fois violemment. Pendant qu'elle me poussait contre le mur, je lui disais je suis enceinte.
Placée en garde à vue pour outrage, puis libérée en raison de son état, la jeune femme ressent des douleurs au ventre le soir même, avant d'être hospitalisée. Le 23 décembre, elle accouche d'un enfant mort-né.
Je sens une injustice. J'ai perdu ma fille. J'allais très bien avant tout ça. J'avais vu mon gynécologue. Une semaine avant, mon col il était très bien fermé. Et voilà.
Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête mais ne fait aucun commentaire sur la version des policiers. La jeune femme a porté plainte pour mutilation permanente.
Thomas Proutot, MeToo, inceste. Depuis les accusations visant le politologue Olivier Duhamel, de nombreux témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux. Des adultes racontent des agressions subies lorsqu'ils étaient enfants de la part de membres de leur famille. La parole se libère, comme celle que vous avez pu entendre tout à l'heure à 7h20 sur RTL. Un récit recueilli par Valentin Boisset. Camille a 30 ans. En 2003, elle a subi les attouchements de son oncle, elle avait alors 13 ans.
Au début, j'ai pas réalisé.
Je me souviens de la première fois d'avoir de leur faire remarquer que ça me plaisait pas, puis ils revenaient à la charge, donc c'était de plus en plus gênant et jusqu'à un point de rupture en fait. J'avais occulté l'idée que c'était fait par mon oncle et quelque chose de trop difficile à gérer émotionnellement en fait.
Et ça a été compris ça par la famille ?
Alors par mes parents, oui. Quant à mes grands-parents maternels, bah, mon grand-père, bah, pour lui, c'était de ma faute et c'était moi qui avais tenté son fils, quoi. Il y a des personnes qui m'ont dit en fait que c'était horrible, que ces personnes étaient monstres, c'est déviant, etc. Je ne pense pas que ce soit des déviants. Je pense que ça relève plutôt en fait du jeu de pouvoir. Je ne sais pas si ça fera bouger quelques lignes. Par contre, ça montre qu'il y a que les choses sont en train de changer du côté des victimes. Et c'est là que je fonde l'espoir.
Au témoignage recueilli par Valentin Boisset, il est à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr.
8h11, Eurostar menacé de cessation de paiement.
La catastrophe est possible, affirme le directeur général de la compagnie, dont le chiffre d'affaires a été plombé par la chute des voyages entre la France et l'Angleterre. Bonjour Martial.
Bonjour.
Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était l'invité hier soir de RTL, a laissé entendre que l'État viendrait à la rescousse. Ça veut dire quoi, Martial? Qu'Eurostar est sauvé?
On ne sait pas encore comment l'État va aider Eurostar. Ce qui est certain, c'est qu'il va renflouer la SNCF qui a perdu 4 milliards au cours de l'année dernière. Reste à savoir si Bercy va considérer qu'en aidant la SNCF, il aide indirectement Eurostar ou si c'est une enveloppe spécifique qui va être débloquée. En tout cas, pour l'instant, côté anglais, c'est une fin de non-recevoir, malgré l'appel à l'aide du patronat britannique ces derniers jours. Pour le quotidien économique Financial Times, ce serait même une excentricité que le contribuable britannique vole au secours d'un groupe détenu indirectement par l'État français. En fait, Eurostar a un défaut, la compagnie est trop anglaise pour les Français et trop française pour les Anglais. Le groupe, il est possédé à 55% par la SNCF, à 40% par un consortium composé d'un fonds d'investissement britannique et de la Caisse des dépôts du Québec, et à 5% par la compagnie ferroviaire belge. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence. Eurostar n'assure plus qu'un aller-retour Paris-Londres et un Amsterdam-Bruxelles-Londres par jour, contre une cinquantaine de voyages en temps normal, dans des trains qui sont vides à 80%. Donc la compagnie brûle du cash, mais ce sera... Elle sera à court de cash au printemps. Elle réalise 5% de son chiffre d'affaires depuis avril. Et le Brexit plus les restrictions sanitaires à cause du Covid et du variant anglais ne vont rien arranger. Donc oui, il y a urgence.
Merci beaucoup pour ces précisions, Martial Youf.
Et on termine le journal à 8h13 avec l'histoire du jour.
Dans l'Hérault, près de Montpellier, un homme s'est amusé à poser sans masque devant la gendarmerie. Et bien après l'heure du couvre-feu, il a posté sa photo sur Facebook avec ce message. Je suis devant la gendarmerie, je n'ai pas de masque. Qui vient? Alors une automobiliste a répondu à l'appel pour le soutenir. Mais les gendarmes aussi sont rapidement intervenus pour corriger l'insolent d'une double amende, 270 euros. Quant à la conductrice, eh bien, elle aurait mieux fait de rester à la maison puisqu'elle roulait sans permis. 135 euros d'amende pour elle et une convocation au tribunal. Ça fait cher la plaisanterie quand même.
Enfin, moi je trouve rassurant qu'on sanctionne les imbéciles de temps à autre. C'était le journal de Jérôme Flora.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h13, on va regarder ce qui se passe du côté des fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, comme chaque jour, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, beaucoup d'anti-vaccins radicaux évoquent le code Nuremberg pour expliquer leur refus d'une injection du sérum anti-Covid. Rappelez-nous le fameux code de Nuremberg.
Alors, c'est ce qu'on appelle être dans l'excès et dans l'absence de perspective historique complète. Le 9 décembre 1946 s'ouvre devant le tribunal militaire américain de Nuremberg le procès de 23 médecins pro-régime nazi accusés notamment d'avoir réalisé des expérimentations médicales sur des êtres humains durant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de ce procès vont être édictés des principes de référence éthique concernant les expériences médicales acceptables. 10 articles, le premier évoquant le consentement volontaire du sujet, absolument essentiel, ou le dernier donnant le droit au médecin conduisant l'expérience de l'interrompre à tout moment s'il pense qu'un prolongement de cette expérience peut entraîner de graves séquelles pour le patient. C'est ce qu'on appelle donc le code Nuremberg, toujours en vigueur. Voilà, on a fait le point Alain Decaux de 8h14, et maintenant, quel rapport avec les vaccins? Eh bien, selon donc les plus radicaux, en allant nous faire vacciner, nous serions les cobayes d'une expérimentation géante. L'homme réduit à une condition de rat de laboratoire en violation totale avec le code Nuremberg, puisqu'on ne nous demande pas notre avis. C'est un argument extrêmement répandu. Et tout cela, bien sûr, est complètement faux, indécent d'un point de vue historique et malsain au niveau scientifique. Un vrai combo.
Et puis, contrairement à ce que prétendent ces anti-vaccins, le consentement a été prévu à chaque étape de la fabrication du vaccin.
Et voilà, si l'on prend le sérum le plus injecté actuellement, le Pfizer BioNTech, 43 448 personnes ont participé à l'étude, recrutées aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, et tous volontaires, donc consentant. Même chose pour les pensionnaires dans les EHPAD. Actuellement, le recueillement de la personne ou de la famille est nécessaire. Et l'argument mettant à plat totalement, ce qui invoque le code Nuremberg par rapport à la campagne actuelle, c'est que la vaccination n'est pas obligatoire. Voilà, donc ça pourrait évoquer ce code, alors que cela n'est pas du tout adapté. En fait, ici, il s'agit moins de parler en fait de science et de consentement que de faire peur. Oui. Les modes code et Nuremberg associés nous renvoient à une époque sombre, violente, et pour certains, nous en serions proches, un raisonnement en chute libre totale qui jongle avec les peurs et ne repose sur pas grand-chose.
Ça veut dire que les anti-vaccins radicaux sont toujours aussi actifs?
Ben oui, alors c'est ça qui est assez étonnant. 54% des Français interrogés par l'Ipsos pour le journal Le Parisien dimanche dernier la souhaitent se faire vacciner. Hein, alors 14 points de plus qu'il y a un mois. Il y a une différence entre ceux qui doutent et ceux qui militent ardemment contre les vaccins. Ces derniers n'hésitent jamais à diffuser, partager, multiplier les intox pour accentuer les interrogations concernant les sérums, notamment sur les réseaux sociaux, et ça ne s'arrête pas. Donc prudence, mais la vraie question c'est maintenant que deviendront ces anti-vaccins radicaux quand la plupart des Français seront vaccinés? Ça reste une énigme.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. Il est 8h16. Et bien justement, on va continuer à parler vaccination avec notre brigade de l'actualité. Les difficultés du laboratoire Sanofi, c'est le sujet de cette brigade. Le retard de son vaccin, un plan social, est-ce une mauvaise passe ou un changement de stratégie? Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Déjà, donc cette confirmation, 400 postes supprimés en recherche et développement, ça fait mauvais effet au moment où le labo n'arrive même pas à mettre un point au vaccin. Hein.
C'est sûr, même si Sanofi précise que la recherche et développement des vaccins n'est pas concernée, mais celle de la chimie. Ce plan de 1000 suppressions de postes avait été annoncé au printemps dernier. Le laboratoire français veut désormais se concentrer sur les vaccins et l'oncologie, gros marché potentiel et rentable, en abandonnant au passage le diabète et la cardiologie.
Ça veut dire quoi, Sophie? La recherche et le développement ne sont plus rentables?
En fait, c'est une tendance plus générale. De plus en plus de gros groupes pharmaceutiques externalisent la recherche et développement, soit complètement, soit une partie, avec à terme des gros mastodontes qui distribueraient des produits trouvés par d'autres, en l'occurrence des start-up ou des biotech. C'est un peu le modèle Pfizer-BioNTech, hein, mais là, il faut choisir le bon cheval. Ces suppressions de postes ne signifient pas que le laboratoire Sanofi perd de l'argent ou est en difficulté. Sanofi est le deuxième distributeur de dividendes en France derrière Total, loin devant la BNP. C'est un choix donc stratégique.
Alors, vous nous expliquez que Sanofi n'est pas en difficulté. Néanmoins, son vaccin a pris quand même énormément de retard.
Oui, 3-4 mois de retard. Le vaccin de Sanofi à base d'une protéine recombinante, mise au point avec un autre mastodonte, un autre Big Pharma GSK. Sauf que lors des essais, les antigènes ont été sous-dosés, pas assez efficaces. Donc, chez les plus âgés, il faut tout recommencer. Oui. Faut-il tout arrêter? C'est l'avis de certains connaisseurs du secteur. Si le virus mute trop, ce vaccin avec cette méthode-là sera-t-il encore efficace à l'automne lorsqu'il sera prêt? Rien n'est moins sûr. Deuxième stratégie développée par Sanofi, l'ARN messager. Mais là, les essais cliniques ne sont pas terminés.
C'est pour ça que le gouvernement demande à Sanofi de fabriquer les vaccins de Pfizer.
C'est vrai que ces chaînes de production ne tournent pas, hein, puisque le vaccin n'est pas prêt. Mmh. Mais la demande est quand même très très inédite dans un secteur hyper concurrentiel. Pression amicale pour le moment de la part du ministère de l'Industrie, qui est quand même très humiliante selon plusieurs experts. Sanofi deviendrait le sous-traitant d'un adversaire. C'est un peu comme si on demandait à Airbus de fabriquer des ailes d'avion pour Boeing.
Alors que répond Sanofi?
Le laboratoire étudie la demande qui pose des problèmes techniques de production mais aussi de brevets. Si Sanofi fabrique le vaccin ARN messager de Pfizer, il faudra forcément connaître la recette, hein, donc des secrets de recherche, des secrets industriels, sachant que Sanofi développe son propre vaccin ARN. Évidemment, tout cela ne se fera pas en un claquement de doigts.
Merci beaucoup Sophie Orange de la brigade RTL pour ces explications. C'est tout de suite plus clair, vous le savez, avec notre brigade. Dans un instant, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bah là aussi, on va s'éclaircir la voix.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Thème passionnant aujourd'hui, vous vous attardez sur un petit problème de saison, les glaires.
Ah oui, il fallait oser. Hein. Oui. Alors, je conçois qu'à cette heure-ci, il soit un peu assez peu ragoûtant d'en parler. D'ailleurs, je ne suis pas certain
qu'il y ait...
Je suis pas certain qu'il y ait une bonne heure pour parler de ça.
Bon, parlons-en.
Il se passe que les glaires enquiquinent pas mal de patients qui se demandent, primo, ce que ça signifie, et secondo, comment s'en débarrasser.
Alors, eh bien, on va reprendre ces questions dans l'ordre. Quand on a des glaires, quelle en est la raison?
Alors d'abord, je voudrais signaler que des glaires, on en avale l'équivalent d'un litre par jour. Hein. Bon appétit. Pas. Simplement, on ne s'en rend pas compte. C'est quand il y a une infection que ça se complique. Comme il y a inflammation, la muqueuse du nez se met à gonfler. Au lieu de se faire par le nez, l'évacuation se fait par l'arrière-gorge et c'est là que vous prenez conscience que vous avez des glaires.
Est-ce que dans ce cas, on peut se considérer comme malade?
Alors, il se peut que vous ayez une sinusite. Hein. Si ça dure dans le temps, cette sinusite peut être chronique, mais pour en avoir la certitude, il faut toujours faire un scanner. Il se peut aussi que vous soyez sujet à une allergie et que ça se traduise par une rhinite. Mais vos glaires peuvent aussi être révélatrices. Alors, je dis révélatrices parce que glaires, c'est féminin. C'est une chétille. Révélatrice donc d'un problème d'estomac. Je prends l'exemple des personnes qui souffrent de reflux gastro-œsophagien. Pour elles, ça se traduit par du liquide gastrique qui remonte vers la gorge, ce qui fait augmenter la production de mucus et favorise la formation de glaire.
J'en viens à la seconde question, comment s'en débarrasser?
D'abord, il faut consulter. En fonction de l'origine de vos glaires, votre médecin saura vous prescrire le traitement approprié. Mais il importe aussi de ne pas tenter le diable en suivant quelques règles de bonne conduite. Petit 1, pas de cigarette, ni de pipe, ni de cigare, parce que s'il est évident que la fumée irrite les muqueuses, vous devez savoir que le tabac augmente l'acidité de l'estomac et potentiellement, par effet domino, la formation de glaire. Petit 2, on se lave régulièrement le nez au sérum physiologique avec de l'eau salée. Petit 3, on s'hydrate encore plus que d'habitude. Vous avez le choix entre la bonne vieille eau plate et le thé au citron enrichi d'une cuillère de miel.
Pardon du détail, mais la couleur des glaires nous renseigne-t-elle sur notre état de santé?
Alors, souvent, mais pas systématiquement. Si vous voyez passer quelque chose de jaunâtre ou de verdâtre, eh bien, c'est qu'il y a infection et qu'il faut agir. Alors, l'erreur vient du fait qu'on interprète parfois mal les glaires transparentes. On se dit, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de problème. Ce en quoi on se trompe un peu, parce que les glaires transparentes peuvent aussi cacher une infection. Donc, dans tous les cas, je vous renvoie à la case consultation.
Vous êtes fier de vous?
Non, mais je crois qu'il n'y a que sur RTL qu'on peut entendre ce genre de choses.
À demain. À demain. RTL. On se prend la main. Et on se prend la main. Toujours avec vous. 479 873 Français ont été vaccinés. Ce sont les chiffres donnés hier soir à 20h par le ministère de la Santé. Dans un instant, c'est le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, qui va nous rejoindre dans ce studio. Nous allons faire un point sur la campagne de vaccination qui peine à monter en puissance. Nous sommes tous concernés.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
8h24, merci d'écouter RTL. Bonjour Aurélien Rousseau.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. 87 118 franciliens ont été vaccinés depuis le début de la campagne. Dans la région parisienne, cela représente moins d'1% de la population totale de notre région, 0,71% précisément. Est-ce que c'est une statistique qui vous satisfait?
Elle ne me satisfait pas parce que comme tout le monde, comme tous les pays du monde, j'aimerais qu'on ait plus de vaccins disponibles. Mais ce que je sais, c'est que dans 15 jours, on aura vacciné tous les EHPAD de la région, les 700 EHPAD. Les EHPAD, c'est 1% de la population du pays, ça aura été 35% des décès. Donc d'ici 15 jours, on aura vacciné 700 EHPAD. Ça représentera, je pense, 40 à 50 000 vaccinations. Donc c'est les plus à risque et on les aura fait. Et les 75 ans, depuis vendredi, il y a 150 000 rendez-vous de primo-injection qui ont été pris. Donc la machine est lancée.
Donc vous nous dites, on a des objectifs, on a des cibles en quelque sorte, et elles sont en train d'être remplies. Mais qu'est-ce qui explique quand même ce si petit nombre de personnes vaccinées? Vous comprenez qu'on soit surpris, vous êtes à la tête d'une grande région, dans un grand pays industriel, et on voit ce démarrage qui est, comment dirais-je, lent si on a envie d'être gentil.
Oui, mais...
On manque de vaccins, soyons clairs.
Aujourd'hui, c'est le nombre de doses disponibles qui ensuite nous permet de fixer le nombre de rendez-vous. Il n'y a pas d'échappement dans ce raisonnement. Donc la semaine dernière, mercredi, on a eu notre nombre de doses Île-de-France. On l'a réparti entre les 109 centres de vaccination, entre les EHPAD et les hôpitaux. Et on a fourni à tout le monde le nombre de doses disponibles. Et on a dit, vous ouvrez les rendez-vous en fonction de ça. Et donc, c'est ce qui est parti. Mais on s'était vu autour de Noël.
Oui.
On avait assumé le principe d'une priorisation. Mm-hmm. En disant, on doit vacciner ceux qui sont le plus à risque. Parce que si on ouvre trop derrière, s'il y a trop de public, il va y avoir un encombrement. Il y a eu, et c'est heureux, une accélération. Donc aujourd'hui, on sait qu'on doit vacciner plusieurs millions de personnes, mais on sait aussi au jour le jour combien on a de doses disponibles, et c'est ce nombre de doses qui va être le principal déterminant.
Avez-vous les doses disponibles qui vous permettront de faire, donc sur ces personnes qui ont été identifiées et qu'on vaccine en ce moment, qui vous permettront de faire deux ou trois semaines ensuite la seconde vaccination?
Ben c'est tout le cœur du sujet, c'est que... Et ça répond à une question que vous vous posez. On aura fait, à la fin du mois, France entière, et l'Île-de-France prendra sa part, évidemment, on aura fait plus d'un million de vaccinations. On aura eu de Pfizer, parce que il faut dire les choses, on aura eu la livraison, on devait avoir 2,6 millions de doses, ils ont réduit de 300 000 cette semaine, donc on aura 2,3 millions de doses. Parce que précisément, on garde cette deuxième dose. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive, comme dans d'autres pays actuellement, avec au moment de faire la deuxième injection, on n'a plus dans nos stocks les doses disponibles. Oui. Donc on est obligé en permanence de raisonner avec cette nécessité de pouvoir fournir dans 4 semaines la deuxième injection.
Globalement, que vous disent les laboratoires ?
Aujourd'hui, c'est le ministère hein, qui négocie, et l'Union européenne qui négocie directement avec les laboratoires. On a eu cette semaine un très fort désagrément avec une réduction des doses qui nous a obligés à utiliser l'intégralité des marges de sécurité qu'on s'était données. Donc on est en flux tendu, on n'a plus rien en réserve. Et les laboratoires nous annoncent, on espère, je prends pour l'Île-de-France, la semaine prochaine on devrait avoir le même nombre de doses que cette semaine, enfin que ce qui était prévu cette semaine, et augmenter progressivement. C'est ça l'objectif.
Je cite Anne Hidalgo hier, la maire de Paris. Si on reste sur un rythme de 10 000 doses par semaine, il nous faudra environ 8 mois pour arriver à vacciner uniquement les 170 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Que lui répondez-vous ?
Moi, je ne lui réponds pas directement. Moi, je sais que toutes les doses disponibles que Pfizer livre, on les met dans le circuit pour pouvoir vacciner. Et ce sujet, on a tendance en France à regarder un peu juste autour de nous. Ce sujet, vous avez en Allemagne aujourd'hui des centres de vaccination fermés parce qu'il n'y a pas assez de doses. C'est la même chose en Angleterre. Donc, les perspectives, elles sont simples. On va utiliser toutes les doses qu'on a. Et par ailleurs, simultanément, on a des annonces d'augmentation des productions. Pfizer l'a confirmé à l'Union européenne. Et on aura d'autres vaccins qui vont arriver, peut-être pas ciblés forcément sur les mêmes populations, mais d'autres vaccins qui vont faire baisser la pression qu'on connaît actuellement, et je pense notamment au vaccin AstraZeneca qu'on espère pouvoir avoir dans quelques semaines.
C'est le troisième qu'on devrait avoir assez rapidement. Comment se passe la prise de rendez-vous dans les centres de vaccination ?
La prise de rendez-vous, d'abord, comment dirais-je, il y a 15 jours, on nous a dit, et encore une fois, c'est positif, allez-y, il y a des populations cibles nouvelles. On a monté avec les collectivités et de façon remarquable, les collectivités se sont bougées. Je pense à tous les maires qui ont monté des centres de vaccination.
Il n'y a aucun doute.
109 centres de vaccination. Des centres de vaccination, c'est pas juste des murs, hein. C'est des personnels de santé, un système informatique, de la sécurité, de la pharmacovigilance. C'est un système de réservation. Ce système de réservation, il a été ouvert jeudi et vendredi par téléphone, par internet. Aujourd'hui, La réalité, elle est simple, c'est qu'il y a une très très forte demande. Donc, on a la quasi-totalité des rendez-vous pour les 4 premières semaines qui ont été pris. Et chaque semaine, on ouvrira la semaine suivante de rendez-vous pour que les gens puissent avoir accès à la vaccination.
S'il y a des imprévus ou des bouleversements dans les prises de rendez-vous, est-ce que vous prévenez les gens ? Est-ce qu'il y a un retour ? Vous comprenez ma question ?
Bien sûr, aujourd'hui, notre but, c'est que tous les rendez-vous qui ont été donnés, on puisse les honorer. Entre vendredi où ils ont été donnés et vendredi après-midi, on a eu Pfizer qui nous dit 300 000 doses de moins. À ce stade, on se bagarre en faisant des réallocations entre régions pour maintenir l'intégralité des rendez-vous qui ont été pris. Et oui, les plateformes, vous connaissez leur nom, c'est Doctolib, c'est Keldoc, c'est Maya, préviennent, ils donnent le deuxième rendez-vous pour la deuxième injection, et on doit être capable de s'adapter en permanence. Je dis pas, parce qu'il faut pas raconter l'histoire, je dis pas que tout se déroule, des accros, il y a des loupés, mais globalement, 150 000 rendez-vous de prix, c'est au fond une très bonne nouvelle. Il y a 2 mois, la vaccination, ça paraissait très loin encore.
Les centres sont ouverts le dimanche ?
Non, la plupart sont ouverts sur 6 jours. Et puis certains ont décidé de réduire pour faire plus de volume en une journée. La plupart sur 6 jours, on vaccine assez peu le dimanche. Le dimanche, on vaccine surtout des personnels soignants dans les hôpitaux.
Alors, vous connaissez le prochain canon disponible pour se faire vacciner. Certaines régions n'ont déjà plus de place avec le mois de mars. On en est où pour nous en région francilienne ?
Aujourd'hui, il faut être très clair. On n'a ouvert que les 4 premières semaines de vaccination. Oui. On a ouvert 4 semaines, c'est les semaines, ce qu'on appelle de primo-injection. Et ensuite, on ouvrira semaine après semaine, la semaine suivante. Donc oui, aujourd'hui en région Île-de-France, là, on n'est pas encore à totale saturation. Il y a des endroits dans lesquels on a encore des rendez-vous disponibles. Mais les Franciliens ont été au rendez-vous. Et par ailleurs, on parle beaucoup de ces centres ambulatoires. Mais je le disais tout à l'heure, on vaccine en 15 jours dans les 700 EHPAD de la région, c'est un point essentiel. Et on continue, parce que ça, il ne faut pas lâcher, on continue à vacciner les professionnels de santé, notamment les soignants et les malades les plus graves à l'hôpital.
Merci beaucoup Aurélien Rousseau, je rappelle que vous dirigez l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Bonne journée à vous et bon travail.
Merci.
Dans quelques instants, Louis Baudin et la météo à 7 jours.
RTL Matin.
Louis Bodin, c'est l'heure de la météo à 7 jours.
Exactement, avec, on l'a dit aujourd'hui, une belle accalmie, avec un petit peu moins d'averses, un petit peu plus de soleil, y compris dans la moitié nord cet après-midi. C'est vrai que ce matin, il y a encore quelques averses, mais elles vont s'atténuer. J'ai même quelques flocons là qui arrivent sur la Lorraine, sur les Ardennes, là, je les vois précisément. Alors tout ça va se calmer donc cet après-midi pour laisser le soleil s'imposer, comme il le fera très facilement dans la moitié sud. Les températures un peu au-dessus des normales de saison. Demain, eh bien, ça va commencer à se dégrader dans les régions de l'ouest, mais c'est vrai que dans l'est et le sud, on profitera encore d'un petit répit avec même probablement la journée la plus douce ou la moins froide, hein, tout est relatif. Les températures qui frôleront les 10 degrés dans la moitié nord et entre 10 et 13, 14 degrés dans la moitié sud, parce qu'alors après, ça se gâte à nouveau. Pour la journée de jeudi, on retrouvera des nuages, de la pluie, de la neige en montagne, du vent, un vent assez fort, notamment dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la moitié nord, on frôlera les 100 km/h. Les températures repartiront à la baisse, entre 7 et 9 degrés dans la moitié nord, un peu plus de 10 degrés dans le sud. Vendredi, nouvelle perturbation, avec des températures qui baissent encore un peu, même chose pour samedi. Et entre samedi et dimanche, comme les températures vont baisser, bien de nouveau, je vous parlerai de neige quasiment jusqu'en plaine, peut-être dans les Ardennes, en Bourgogne, dans les régions du nord-est, peut-être temporairement en Normandie, en tout cas à surveiller. Mais ça, ça veut dire encore de l'humidité, du froid, beaucoup de neige en montagne, et puis peut-être de nouveau une petite accalmie en début de semaine prochaine.
Moi, c'est le vent qui m'a légèrement surpris ce matin à Paris.
Oui, c'est vrai, mais ça sera aussi accompagné de vent.
Merci beaucoup, Louis Bodin. RTL, il est 8h30.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça, direction Beauvais ce matin pour un très émouvant voyage dans le temps. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez embarqué à bord du Grande Via, un wagon un peu particulier. Cette reproduction d'une cabine de train se trouve dans l'EHPAD du CHU de Beauvais. Un train immobile qui fait voyager les résidents souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Le train numéro 18024.
Dans un bâtiment voisin de l'EHPAD, l'animatrice, casquette de chef de gare sur la tête, distribue de vrais titres de transport.
Un petit billet, monsieur Rouge, pour aller dans le wagon. Allez, on y va. Bon voyage. C'est parti. Vous pouvez vous installer confortablement, messieurs, dames. Récupère les billets pour les valider quand même.
Une fois les résidents installés à leur place, c'est parti pour un voyage le long du chemin de fer de la baie de Somme.
On voit personne. Bon, c'est peut-être un moment où les cultures n'étaient pas à faire, quoi. Même la campagne, c'est pas mal, hein, à voir comme ça.
Bernadette est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle regarde défiler les paysages et a déjà fait le véritable trajet en train avec sa famille. Alors cela réveille beaucoup de souvenirs.
On avait garé la voiture comme ça sous les arbres. La gare, les rails, là, tout ça, là. Puis hey, ça, le bâtiment, là. C'est une usine, ça, je crois. Je reconnaîtrais bien.
Puis direction la Suisse pour un nouveau trajet à bord du Grand Via.
Puis il y a la couleur des arbres.
Oh oui, c'est beau, hein.
Et il y en a des arbres.
Oui.
Là, on a vraiment l'impression d'être dans le train et de regarder les montagnes suisses.
Ah oui, oui, oui. Oui. Oh, puis je sais pas, vous pensez pas à autre chose. Là, vous regardez, vous... Ah, là, c'est beau. Un moment après, oh, puis là, c'est beau, hein.
Ça change de la vue que vous avez peut-être de la fenêtre de votre chambre, là-haut.
Ah, bah oui. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose, hein.
Oui. Mesdames, messieurs, notre train vient d'arriver en gare.
Alors, c'était comment ce voyage, Bernadette?
Ah, c'est bien, hein. Ah oui, oui, j'y retournerai bien. Et puis, je dis à tout le monde qu'il faut essayer.
Et plus qu'un simple trajet dans ce faux train, Hortense, cette thérapie du voyage en EHPAD a des effets bénéfiques sur les résidents.
Oui, le concept est né en Italie il y a près de 7 ans. Chez nous, l'entreprise Sigo, basée à Amiens, a lancé en 2019 la production de wagons 100% made in France.
On a du recul aujourd'hui au niveau médical.
Jean-Christophe Froman, le cofondateur de Sigo.
Ce dont on s'est rendu compte, c'était que les images de paysages qui défilaient et surtout le son du roulement du train, ça leur rappelait des souvenirs. Les études montrent un apaisement, une amélioration de la communication entre les patients et les soignants.
C'est ce que constate aussi Delphine Varnière, la responsable de l'animation sur le pôle gérontologie du CHU de Beauvais. C'est elle qui joue le rôle de chef de gare.
Ça les apaise. On a une personne pour qui généralement c'est plutôt en fin de journée qu'on l'accompagne ou c'est difficile parce qu'elle est agitée. Et quand on l'emmène au train, elle revient, on a passé le cap de l'agitation, elle est posée et c'est plutôt très bénéfique en tout cas.
Ce voyage, une sorte d'échappatoire aussi pour ces résidents affectés par les mesures prises par les EHPAD pour lutter contre la propagation du coronavirus.
Ça leur permet de s'évader un petit peu, effectivement, pour le peu en plus là, ces résidents sortent de leur EHPAD, hein, même si c'est juste à côté, mais en fait ils sortent quand même sur l'extérieur, dans le jardin pour venir au train, donc c'est vrai que c'est un vrai voyage pour eux d'aller on part vraiment à la gare pour prendre le train en fait.
pense que c'est un bon moment pour eux et c'est l'accueil aussi fait que, même s'il y a une appréhension pour certains parfois de venir au train, le fait de nous voir là, en chef de gare, préparer les billets, ça amène tout de suite des relations plus calmes.
Ce wagon de Beauvais est le premier vendu par Sigo. L'entreprise souhaite aujourd'hui démocratiser le système et a déjà reçu une soixantaine de demandes de devis.
Assurez-vous de n'avoir rien oublié avant de descendre du train.
Très beau reportage, signé Hortense Crépin, ce matin. Vous êtes comme ça à bord du Grande Via à l'hôpital de Beauvais. Un train factice, c'est à retrouver sur votre smartphone avec l'application RTL ou sur internet sur le site rtl.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40 ce matin, Isabelle Choquet. Vous voulez rendre hommage à un géant de l'astronomie disparu prématurément le mois dernier. On l'appelait Arecibo.
Oui, du nom de la petite ville où il avait été construit au début des années 60 sur l'île de Porto Rico. Arecibo était un gigantesque radiotélescope, l'un des plus performants du monde et sans doute le plus célèbre. Sa silhouette unique est connue dans le monde entier parce qu'elle a servi de décor à plusieurs films ou séries télé. X-Files, Contact avec Jodie Foster. Et puis, c'est là notamment que se déroulent les scènes finales d'un James Bond. GoldenEye avec Pierce Brosnan dans le rôle de 007. Une star donc, Arecibo, mais le 1er décembre dernier, ce monument s'est littéralement effondré sur lui-même. Alors Arecibo était condamné de toute façon, deux câbles porteurs s'étaient cassés il y a quelques mois. Irréparable, l'observatoire devait être détruit. Et puis finalement, les câbles ont rompu les uns après les autres et toute la structure s'est écroulée. Accident extrêmement spectaculaire. Personne ne s'attendait à une fin aussi brutale. La communauté scientifique est en deuil. C'est la fin d'une prodigieuse aventure. Éloge funèbre dans le magazine Science et Avenir. Cet observatoire, c'est d'abord un site exceptionnel, une dépression naturelle en plein cœur de la jungle. La ville d'Arecibo est en fait à une heure de route à travers les collines. C'est un site époustouflant et assez déroutant pour un Européen, oui, raconte un astronome français. Une centaine de personnes vivaient là en permanence, dont une vingtaine de scientifiques et beaucoup d'étudiants. Ce site, on le reconnaissait immédiatement à cause de son antenne réceptrice monumentale en forme de coupole. 40 000 petits panneaux en aluminium sur un diamètre de 305 mètres. Elle a longtemps été la plus grande au monde, 10 à 30 fois plus grande que ses rivales. Bon, c'était avant le radiotélescope chinois FAST et ses 500 mètres de large. Grâce à cette gigantesque antenne, les ondes radio provenant de l'espace étaient recueillies et redirigées vers une panoplie de capteurs située sur une plateforme suspendue à 140 mètres de hauteur. Pourquoi faire ? Eh bien, à l'origine, Arecibo était financé par l'armée américaine. Il devait aider à débusquer les satellites et les missiles soviétiques. Mais très vite, il a été utilisé pour capter toutes sortes de signaux astrophysiques, ceux de Mercure ou Vénus ou de galaxies encore plus lointaines. Côté précision, on n'a pas encore fait mieux. Le télescope était l'instrument idéal pour repérer les cadavres d'étoiles, par exemple. C'est ainsi qu'il a pu apporter les premières preuves de l'existence des ondes gravitationnelles. Ça, c'est une découverte qui a été saluée par un Nobel en 93, un Nobel de physique. C'est aussi à Arecibo que les premières planètes extrasolaires ont été mises en évidence. Mais les radiotélescopes, ce ne sont pas que des récepteurs, ce sont aussi des émetteurs. Et Arecibo, c'était le plus puissant du monde hors équipement militaire. La NASA l'a beaucoup utilisé pour étudier les astéroïdes, repérer par exemple ceux qui pouvaient menacer la Terre. Ces signaux étaient si intenses qu'ils ont permis de découvrir en 2003 des lacs d'hydrocarbures sur Titan, une lune de Saturne. Nous sommes là à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre, il faut se rendre compte. Dès 1974, un message radio a été envoyé à d'hypothétiques civilisations extraterrestres. On attend encore la réponse. Hélas, ce géant cosmique n'était pas préparé au soubresaut de la planète Terre. En 2014, un séisme a abîmé la structure porteuse d'Arecibo et ça ne s'est pas arrangé avec l'ouragan Maria en 2017. On connaît la suite. Des quantités de recherches devaient être menées à Arecibo cette année, dans les années à venir. Alors certaines seront sans doute poursuivies ailleurs, mais d'autres risquent d'être définitivement abandonnées. Il y aura scientifiquement un vrai manque, dit un chercheur. Et c'est aussi une catastrophe pour les Portoricains qui étaient très fiers de leur télescope iconique. C'est comme si pour nous, la Tour Eiffel venait de s'effondrer, voilà ce qu'ils disent. Arecibo n'écoutera plus le ciel, c'est-à-dire dans Science et Avenir.
Peu de science, mais beaucoup de rire. Dans un instant, ce sera avec Laurent Gérard. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À demain.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
8h46, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Les nouvelles mesures prises pour contrer l'épidémie de Covid-19 ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale, les Sinoc. L'épisode du jour, raconté bien sûr par l'inoubliable Claude Pieplus, s'intitule « Le couvre-feu ».
«
ce temps-là, sur la planète Sinoc, le Sinocastex hésitait. Après avoir annoncé pendant plusieurs jours que le confinement n'était pas exclu, mais pas envisagé, mais restait une éventualité non éventuelle de probabilité improbable. Il décida finalement d'instaurer un couvre-feu à 18h sur tout le territoire. Les Sinoc n'avaient donc plus qu'un seul droit, travailler. En imposant le métro-boulot-dodo au Sinoc, le Sinocastex espérait leur éviter l'apéro boulot-rosto. Avec ce couvre-feu, le Sinoc de santé misait quant à lui sur une pénurie rapide d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qui camouflerait la pénurie de vaccins. Vaccins auxquels devaient accéder les personnes âgées qui n'avaient pas Internet en s'inscrivant sur un site web en panne, exposant nos seniors à la menace du variant anglais, du variant sud-africain et du variant français. Résolu à ne pas fermer les écoles, le Sinoc de l'éducation décida pour sa part de tester les lycéens au maximum, puisqu'on allait encore leur offrir le bac, ce serait l'occasion pour eux de réussir au moins un test dans l'année. Le Sinoc de l'économie, qui ne savait plus quoi faire pour relancer la croissance, passa dans la population avec un chapeau en demandant au Sinoc de dépenser une épargne qu'il n'avait pas en leur promettant de ne pas augmenter les impôts qu'ils ne pouvaient plus payer. Quant à la Sinoc de la culture, elle n'avait une fois encore rien obtenu pour le monde de la culture et commençait à se demander si elle n'aurait pas mieux fait de continuer à raconter des blagues de cul chez le Sinoc Ruquier. C'est tout pour aujourd'hui.
Une épidémie de grippe aviaire sévit actuellement dans le sud-ouest de la France. Oui. Des milliers de canards sont abattus dans le Gers, les Landes et les Pyrénées. Bonjour Jean Lassalle.
Bonjour. Chère mademoiselle Jade.
Oui.
Honorable monsieur Calvi. Mm-hmm. Mes chers compatriotes de France et d'outre-mer. Bonjour.
Bon, vous êtes une personnalité emblématique du Sud-Ouest. Comment abordez-vous cette épidémie de grippe aviaire ?
Avec d'autant plus de tristesse que j'ai moi-même dû abattre mon canard sur arrêté préfectoral.
Ah ben,
ça s'appelait comment ?
C'est pas un canard qu'on entend justement, vous allez le savoir.
Mais non, c'est mon petit-fils qui fait l'imbécile. Arrête, Mathéo, je suis en direct sur Radio Luxembourg.
Non, 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 mais monsieur Lassalle, c'est un vrai canard, ça ?
Bon d'accord, j'avoue.
Oui.
C'est Gédéon.
Oui.
Je n'ai pas réussi à le zigouiller, Gédéon.
Ben non. Ah, ben je comprends, vous êtes attaché à lui.
Petit pépère.
Ah, absolument.
Ben oui.
Vous me comprenez, mademoiselle Jade. Vous aussi, vous aimez les bêtes.
Ouais.
Ben oui.
Comment s'appelle votre petit chien déjà ?
Allez, Bibi.
Eh bien, mon Gédéon, c'est un peu comme votre Bibi.
Oui.
Je l'aime comme un membre de la famille. Quand je vois ces belles cuisses, ces jolis magrets, même crus, j'ai envie de le bouffer.
Enfin, j'ai pas envie de manger Bibi, moi.
Ça, je vous comprends. Il y a rien à bouffer sur ces petits roquets.
Oh, dites donc, je vous en prie. Hein.
Alors que mon Gédéon, quand on aura fini de le gaver, on va se régaler.
Mais vous n'avez pas peur qu'il attrape la grippe aviaire ?
Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je le confine tous les jours à 18h et lui nettoie régulièrement le bec. Avec du gel hydroalcoolique.
Oh.
Il va nous donner un beau foie gras. D'ailleurs, si M. Lignac a une recette, je suis preneur, bout du con.
On lui demandera.
Il vous écoute.
L'ancien gendre de Patrick Balkany a été mis en examen pour recel, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé dans l'enquête concernant la société levalloisienne Semarelp.
Mensonge.
Bonjour monsieur Balkany, votre fille a également été placée sous le statut de témoin assisté dans cette affaire.
Je sais, ils ont décidé d'emmerder toute la famille. Après mon gendre et ma fille, vous allez voir qu'ils vont s'en prendre à ma nièce.
Quelle nièce ?
Léa Balkany, ma nièce de 6 ans, la comptable de la Semarelp.
Comptable à 6 ans. Oui, c'est un peu suspect, ça, non ?
Diffamation.
Ouais.
Chez les Balkany, on est précoce. La preuve, mon neveu Kevin Balkany est déjà à la tête de sa propre société, alors qu'il a seulement 12 ans.
Mais quelle société ?
Allô, Toshi. Livraison 7 jours sur 7 sur le Valois et environ.
Mais c'est bien légal, ça ?
Et pourquoi ça serait pas légal ? C'est pas parce qu'à Balkany manque une affaire qu'elle est forcément illégale. C'est comme le restaurant de mon cousin, Hervé Balkany.
Quel restaurant ?
Pizza pute. Un restaurant.
Quel est le propos de...
Ah, je vais vous raconter.
C'est simple, monsieur Calvi.
Un restaurant où on peut consommer des pizzas et des putes. Une excellente adresse à Levallois. J'étais encore hier soir, j'ai pris une margarita turlute.
Oh là 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 là.
Je me suis régalé.
Non.
Sauce piquante. Et vous. Vous allez voir que les juges vont trouver hardi. Non, mais vraiment.
Alors, pardon de vous contredire encore, mais en effet, on est quand même à la limite de l'illégalité.
Balkany, calomnie.
Les fake news complotistes se multiplient. Vous le savez, il y a quelques jours, un article mensonger faisant état de l'arrestation du pape pour trafic d'êtres humains et pédopornographie est devenu viral. Pour infirmer cette rumeur, nous recevons bien sûr sa sainteté, le pape François.
Hola, Soriane.
Hola.
Hola, frère Carvinouche. De matin. Sonne les matines. Sonne les matines. Ding, dong. Ding, dong. Ils sont complètement cintrés. C'est complotiste. Il n'est pas fait toutes ces horreurs. Il n'est rien fait.
Ah bon, sans doute, pas François, oui. Rassurez-vous.
Il n'est rien fait.
Ah ben non.
Mais il doit me confesser tout de même.
Oui.
Ah. Une fois, il est péché, Soriane. Il est péché.
Oula, vous nous faites peur. Vous pouvez nous raconter ?
Il a regardé des images obscènes. Et le pire, c'est qu'il a pris du plaisir.
Oula,
c'est
oula.
Mal. C'est très mal.
Oulala, vous nous faites de plus en plus peur. C'était quoi ?
Les pages lingerie du catalogue La Redoute Printemps-Été 1983. Les pages lingerie. C'est mon prédécesseur Jean-Paul Doge qui avait laissé aux toilettes. Il est honte.
Eh ben, si ce n'est que ça, tout va bien,
oui.
On va dire.
Tout m'absout, Soria. Dieu te remercie, tout m'absout. Qui n'avait pas envie de me flageller avec des orties fraîchement cueillies par les jardiniers du Vatican.
Mais non, on est très loin de ces affreuses rumeurs colportées par les complotistes.
Ils sont toc-toc, ces complotistes.
Oui.
Ils croient que la terre est plate et que les cheveux de Donald Trump, ils ne sont pas en nylon. Tout est en compte. C'est comme si moi, il disait qu'un monsieur, il avait marché sur l'eau et qu'il était ressuscité des morts.
Oui, ou multiplié les pains.
Ah non, ce n'est pas une fake news.
Ah.
Il existe vraiment, il les connaît. C'est mon boulanger.
Bon, ou transformez-le en vin, si vous préférez.
Il existe aussi.
Ah,
il n'est pas loin.
Oui.
Il n'est pas loin de vous.
C'est quoi ?
C'est Yves Calvinus.
Ah bon ?
La dernière fois qu'il est dîné chez lui, je ne sais pas comment il a fait. Mais il a changé toutes les bouteilles de viande en bouteilles de côtes rôties, des côtes du Rhône.
C'est pas drôle.
Et même du château neuf du pape, il m'énerve.
Que de bons souvenirs, votre sainteté.
Mais oui, c'est sûrement.
On a fait un bon repas.
Bon, alors, le repas va continuer, puisque dans quelques instants, Cyril Lignac va nous donner sa recette.
Il fait une religieuse, non c'est
Non, une belle purée de pommes de terre aujourd'hui, Cyril, nous sommes d'accord. Voilà. C'est dans quelques instants.
Pour les multiplier.
Oui, nous allons les multiplier, comptez sur nous. Alors, on vous retrouve sur le site rtl.fr.
Ah bah oui.
Et je remercie toute l'équipe. À demain matin.
C'est
à
magique.
Demain. À demain. C'est magique.
Bonne journée avec RTL.
RTL toujours avec vous. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h58, Cyril Lignac. Sophie via Dessine Charpieux, c'est dans le département du Rhône. Quelle presse purée pour une purée bien lisse. J'ai un système avec levier, rondelle percée qui prend une patate à la fois et qui allait très bien, mais depuis 6 mois, j'ai des purées granuleuses sans savoir pourquoi. Je cuis plus longtemps, je change de variété de patate en vin. Triste, car les enfants n'aiment pas la granuleuse. Est-ce mon presse purée qui est vieux? Voilà, alors vous avez une consultation et une recette à donner.
Alors, c'est marrant parce que je fais la cuisine, mais alors je ne suis pas du tout un bon bricoleur. Donc, moi, je pense qu'il y a deux choses.
Oui.
Le presse-purée, on dit toujours il y a pas de mauvais matériel, il y a que des mauvais ouvriers. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est pas la faute du matériel. Je pense que c'est une technique, c'est-à-dire que ce qui fait que les purées sont granuleuses, c'est que deux choses. Soit la pomme de terre n'est pas assez cuite, et quand on la passe à n'importe quelle presse-purée, elle graine et elle granule. Mm-hmm. Soit, on appelle ça elle corde, c'est-à-dire qu'elle devient élastique. Oui. Là, pour réussir une bonne purée, il faut prendre soit des petites pommes de terre rates, donc soit on les épluche avant, on les met dans de l'eau, moi je pense que c'est la mieux, parce qu'elle est assez ferme. On la cuit dans de l'eau, mais vraiment, moi je cuis très très bien les pommes de terre. Il faut vraiment que quand on pique avec le couteau, la pomme de terre tombe, et que ce soit vraiment limite à l'écraser à la fourchette.
Okay.
Ensuite, pendant qu'on la passe au presse-purée ou qu'on l'écrase à la fourchette, ou même moi à la maison, j'ai une espèce de manche avec comme une écumoire au bout, et donc j'écrase les pommes de terre comme ça, ça marche très bien. Ce qu'il faut, c'est toujours faire chauffer le lait. C'est-à-dire, on mélange la pomme de terre et tout de suite, on y ajoute le lait. Ce qui permet de la détendre et ce qui permet d'éviter qu'elle devienne granuleuse et qu'elle devienne élastique. Une fois qu'elle a bonne texture, là, on y va avec le beurre. Alors,
donc, pour l'instant, j'ai fait pomme de terre bien cuite,
exact.
Lait bien chaud et le beurre derrière.
Et le beurre derrière. Okay. Alors, le beurre qu'on sort, et moi, je mets toujours des petits morceaux de beurre et une bonne purée, je la travaille au fouet.
Ouais.
Parce que plus je vais fouetter le beurre, plus je vais aérer la purée, plus elle va prendre de l'air et plus elle va être onctueuse et beurrée et crémeuse. Et alors, si on est un peu gourmand, on ajoute un peu une cuillère de crème fraîche. Allez. Ça, j'ai rien dit.
Il adore. Alors, je rappelle juste les proportions. Pour un kilo de pommes de terre cuites, chauffez 12 centilitres de lait, 12 centilitres et demi, et 70 grammes de beurre. On est d'accord.
Jusqu'à 100 grammes, si on est gourmand.
Bah, oui.
Et ma petite astuce,
on est gourmand.
Si on a un peu de goût, si on a une gousse de vanille, on peut mettre un petit peu de vanille dans la purée. C'est hyper bon. C'est pas sucré. Et ça fait voyager, il faut essayer. Il vous avait pas l'air convaincu, mais je suis sûr que ça va vous plaire.
Je vous crois. Merci beaucoup, Cyril. Il est 9h.